18h, 20h, Fou de Sport, avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette journée exceptionnelle, mais nous sommes toujours bien entendu en période hivernale, vous l'aurez compris. Dimanche 9 janvier 2022, avec ce soir Sofiane pour m'accompagner, car coach est parti à quelques heures d'ici dans un lieu, attention, dans le cadre professionnel, je précise. Et puis c'est apparemment, ce serait un superbe centre. Je n'en dis pas plus, c'est lui qui va nous raconter cette aventure la semaine prochaine. Alors, pour effectivement passer cette émission et ces deux heures, nous allons vous donner ce fil conducteur afin que vous puissiez réagir en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que vous avez le droit d'appeler deux fois. À chaque fois, par exemple, sur la première heure, on va la consacrer à la France, à l'Europe, etc. et tout. Et la deuxième heure sera consacrée à l'Afrique. Puisque vous le savez, à partir de maintenant, déjà tous les jours dans le cadre de Time Sport, plus bien entendu la minute Cannes de la matinale et également Foot de Sport le dimanche, nous allons réserver beaucoup de temps à cette Coupe d'Afrique des Nations 33e édition qui se déroule au Cameroun. Je dirais enfin qui se déroule au Cameroun. Mais de cela, j'en parlerai bien plus tard. Tout de suite, je vais accueillir Sofiane qui va m'accompagner pendant ces deux heures.
Jusqu'à 20h. Fou de Sport. Sur Beurre FM.
Bonsoir Sofiane.
Salut Mohamed, je salue les auditeurs, les auditrices et le coach s'il a l'écoute. C'est vrai qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais on se tient au courant effectivement. Je pense qu'on aura du croustillant la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je suis content de te retrouver Mohamed pour décortiquer cette actualité foot qui était très très condensée cette semaine.
Moi je l'appellerais l'actualité Covid.
Ouais.
Il s'en est tellement passé de choses à travers les clubs, les grands joueurs, tout le monde aujourd'hui n'y échappe pas. Et d'ailleurs, tous les grands spécialistes vous le disent, avec Omicron qui souffle tel une espèce de nuage à l'infini, que tout le monde sera touché, quoi qu'il advienne, mais entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, that is the question. Bon, je n'en dis pas plus. En tous les cas, nous, ici à Beurre FM, on s'est protégés. Je vous l'assure, dans l'équipe, il n'y a pas de problème. Et raison pour laquelle, avec Sofiane, nous allons vous décortiquer toute cette actu pendant la première heure. Sans plus tarder, c'est parti pour ce que j'appelle moi-même la semaine sportive. Pardon. Voilà, ça devrait partir.
Fou de sport. La semaine sportive.
Bon, est-ce qu'on peut l'appeler semaine sportive ou semaine Covid, mon cher Azotel?
Ouais. Écoute, c'est vrai que on a eu pas mal de perturbations en termes d'organisation, puisque en même temps, c'est toute la société qui est touchée par ces protocoles où on ne comprend pas grand-chose et où finalement, bon, il y a une histoire de, je crois, c'est la limite de 10 joueurs pour qu'un match ait lieu, donc faut les reporter. En tout cas, ça va être un casse-tête pour la Ligue pour reporter tous ces matchs,
Sauf pour la Coupe de France où là, l'histoire de Bordeaux notamment.
Oui, Bordeaux qui a joué quasiment sur l'équipe réserve face à Brest et qui a pris la tôle, quoi. Ouais. Qui a pris la tôle et qui l'a, parce qu'apparemment il y a eu une histoire, tu sais, de déclaration un jour avant, un jour après. Donc t'as des clubs qui sont un peu filous. Donc t'as des joueurs qui sont positifs mais qui jouent, quoi.
Et parce que les clubs ne disent pas la vérité sur les joueurs, c'est contre ça. Les positifs.
Exactement.
Ça reste anonyme. Mais c'est terrible ça.
Ouais, c'est ça.
Le mec il est positif. Bon, écoute, bon,
il gars, peut jouer.
Tu peux jouer. C'est bon, ça. Voilà, on va pas donner ton nom.
Et Bordeaux s'est senti marron parce que eux a été réglo pour le coup.
21 cas Covidé, c'était énorme.
Et incroyable. Et puis on est revenu aussi, parce que tu parles du Covid, malheureusement, le retour des matchs quasiment à huis clos.
Oui.
J'ai vu en Allemagne deux matchs ce week-end à huis clos. Deux super matchs en plus. Et en France, c'est ça, la jauge est à 5000. Bon, j'ai vu Bordeaux-Marseille, il n'y avait personne.
Mais tu te rends compte que Bordeaux-Marseille,
ouais.
En temps normal, c'est guichet fermé.
C'est ça. Tu parles d'un temps que les moins
de 20 ans. Oui, absolument. Oui. Il faut que les gens sachent que les Bordeaux-Marseille, c'est guichet fermé.
Bah, c'est le tu parles à des sudistes, bon, et des anciens. Je sais qu'ils te diront que Bordeaux-Marseille, c'est le vrai classico pour eux, le vrai choc. Parce que Paris, c'est une invention pour eux.
Oui.
Alors que Bordeaux, c'est une vraie rivalité, quoi. J'avais été surpris quand j'avais été à Marseille, les sudistes oui. qui ont passé les 70 ans, pour eux, la vraie rivalité, c'est Bordeaux et Saint-Etienne. Paris, ils sont pas trop,
d'accord.
Tu vois. Parce que culturellement, c'est là où est-ce qu'il y a les vraies rivalités, régionales. Paris, c'est une rivalité, voilà, copiée sur Barcelone, Real, et inventée par Tapie de Nizo. On va pas refaire l'histoire.
Oui. Et du coup, il y a eu cette histoire de Bordeaux, mais également Angers qui a eu 19 cas.
Ouais.
Des matchs qui sont reportés. D'ailleurs, je regarde le calendrier, je suis au fur et à mesure, et je me rends compte finalement que, mon cher Sofiane, on avait souvent discuté ici avec le coach. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsque on disait que il fut une époque où on observait une trêve hivernale.
Mm-hmm.
Et ben, maintenant qu'il n'y a plus d'hiver, le changement climatique, on va pas dire réchauffement, mais on va parler de changement climatique, fait qu'aujourd'hui, bah regarde, il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de trêve en France.
Quasiment pas, ouais. Ça dure une semaine, la trêve du confiseur.
Oui, c'est ça. Après le jour de l'an, on reprend.
C'est ça.
Chez les Anglais, alors là, Boxing Day, ça a été jusqu'au bout.
On ne s'arrête pas en Angleterre. Et ce qui était le plus frappant, c'est en Allemagne, où avant, on avait une trêve qui était quasiment jusqu'au début février, parce qu'il fait très froid sur les terrains.
L'Allemagne, c'était 3 mois, Nana, Sofia.
Exactement, c'est ça, de décembre quasiment jusqu'à mars.
Oui, c'est ça. De décembre à mars, en Allemagne.
Et là, je vois que ça joue.
Voilà. C'est la première fois que, depuis quelques temps maintenant, je vois qu'en Allemagne, on joue en janvier. Ce qui était impossible il y a une dizaine d'années. Hein.
C'est ça. C'est, comme tu as dit, changement climatique, aussi peut-être des idératas des télévisions aussi, de mettre du football à la télé. Surtout par les temps qui courent où on est à la maison. Donc tout ça fait que, forcément, l'hiver passe à la trappe.
On va revenir justement sur dans cette semaine sportive, notamment sur ce qui s'est passé sur les terrains de football, puisqu'il y a eu malgré tout des matchs. Donc, on va commencer par ce fameux classico du Sud, Bordeaux-Marseille. Hein, c'est, on va dire, le signe indien a été brisé par les Marseillais.
Exactement. Ah, c'est un événement quand même. Hein. C'est une des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire, 44 ans. Donc moi, je n'avais jamais vu Marseille gagner à Bordeaux. Je découvre cette sensation en 2022. Toi, je pense que, si je sais pas si tu fais le football quand t'étais petit, peut-être.
Ça remonte.
Ça remonte à longtemps.
Je me souviens même du temps de Tapie.
Voilà.
Marseille ne gagnait pas à Bordeaux.
C'est ça. Ah, ouais. C'est pour ça qu'on en parlait. On en parlait en antenne. Qu'on peut, déprécier cette victoire eu égard aux cas de Covid à Bordeaux et du huis clos, d'accord, je peux entendre. Mais en même temps, je me dis que des très très grands Marseillais, comme tu as dit, du temps de Tapie, ou même le Marseille champion en 2010, qui était quand même une belle équipe, n'a pas gagné à Bordeaux, donc je pense qu'on crachera pas dans la soupe. L'histoire retiendra que la série s'est arrêtée en 2022. Et le Covid qui profite à Marseille, puisqu'ils avaient déjà fini deuxième au bénéfice de la règle du championnat par rapport au Covid.
Oui.
Donc décidément, le Covid ne fait pas que des malheureux, en tout cas sur le plan footballistique.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, au niveau de Marseille, à un moment donné, on avait tellement investi d'argent dans les joueurs, je pense notamment à Milik, sauf qu'aujourd'hui, Milik n'a quasiment plus sa place, quand il l'a, c'est à contre-courant du schéma de Sampaoli, puisque visiblement le Marseille nouveau, remodelé, marche bien.
Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que Milik, je crois que pour le coup, là, il était positif.
Encore lui.
Il me semble, parce que Marseille aussi avait des absences,
oui.
Précision. Mais moi, tu sais, c'est toujours un gâchis, parce que je suis un admirateur du poste de numéro 9.
Ouais.
Et Milik, pour moi, c'est pas Lewandowski, ce qui est son compatriote, mais c'est un 9, un vrai 9. Quoi. C'est un vrai avant-centre, comme on en fait plus beaucoup aujourd'hui. Donc ne pas le voir sur le terrain, c'est un peu, je trouve que c'est du gâchis. Maintenant, c'est vrai que Mohan, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que Milik, est-ce que c'est un problème d'état de forme ou c'est un problème de schéma? Chacun se fera son opinion, mais malheureusement, il trouve pas sa place dans ce Marseille nouveau, qui de toute façon a une difficulté.
Il tourne, c'est un constat que je fais, Sofiane, c'est un Marseille qui tourne.
Un Marseille qui a une difficulté incroyable à marquer, mais qui a une des meilleures défenses du championnat.
C'est ça.
C'est assez paradoxal, parce qu'on nous vendait Sampaoli comme étant l'entraîneur qui allait faire jouer Marseille le football un peu offensif, champagne, etc. La folie. Finalement, c'est un Marseille élibopesque, je sais pas comment on pourrait dire ça.
Ouais.
C'est un Marseille qui est très bon défensivement, qui prend pas beaucoup de buts. Je crois qu'il a une des meilleures défenses, qui a fait 10 clean sheets cette année, c'est-à-dire qu'il égale le record de Manchester City, mais qui a une difficulté incroyable à marquer des buts. Et d'ailleurs, sa défense, où tu sais, j'en ai fait une rengaine dans cette émission par rapport au gardien de but, le gardien espagnol qui a pris la place de Mandanda, Paulo Lopez, qui a été officiellement transféré dimanche, parce qu'il a fait il y avait une histoire d'option d'achat au bout de 20 matchs. Franchement, c'est quand même une belle trouvaille. 27 ouais. ans, et franchement, sur ce que je vois, c'est assez rassurant, les sorties, c'est vraiment un gardien moderne, et puis, les faits sont sur la table, hein. Oui. Marseille est clean sheet, prend pas de but, donc, l'atout d'avoir un très bon gardien, encore une fois.
Ouais. Ben, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils sont deuxième du classement, bien sûr, il y a toujours Nice qui est quand même là, qui...
Alors, c'est Nice qui est deuxième, à la différence.
Oui,
de
oui,
but,
oui, parce que Nice a carburé avec 3 buts, en déplacement cet après-midi, je crois, du côté de Brest.
Exactement.
Donc, voilà. Alors, il faut justement parler de... Parce que tout à l'heure, ce sera en deuxième partie d'émission, pardon, quand on parlera de tous ces Africains qui ont quitté la Ligue 1, l'Angleterre, etc. Il y a même des clubs qui se sont retrouvés quasiment entre les Covid et les Africains qui sont partis. Il y a des clubs qui n'ont quasiment plus personne.
J'ai vu le chiffre de 56 pour la Ligue 1. 56 Africains.
Que la Ligue 1.
Ouais, que la Ligue 1.
Sans oublier des joueurs qui sont de la Ligue 2, du National.
C'est ça, ouais, en France, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est 56 en tout.
La France. Ouais. Okay. Ouais.
C'est quand même énorme.
Et juste une information, c'est notamment par rapport au FC Metz, en sachant que bien avant la CAN, c'est Farid Boulaya qui a déclaré que il mettait un terme à son contrat avec le Football Club de Metz.
Donc un joueur qui va se retrouver libre en fin de saison.
Ah ben absolument, ouais. Alors je ne sais même pas s'il est. Je pense qu'il est libre dès maintenant. En fait, en gros, même là pendant le mercato hivernal, il est capable de signer.
C'est-à-dire que son contrat se termine en juin.
Oui, mais apparemment, il aurait demandé à être libéré. Quoi.
D'accord, mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que quand le contrat est fini en juin, le joueur peut signer où il veut dès janvier.
Ouais.
Donc quoi qu'il arrive, il peut signer où il veut. Alors maintenant, Boulaya, c'est l'éternel mystère, un joueur quand même qui a ses qualités, qui évolue en Ligue 1, donc qui est un joueur qui est quand même regardé en Ligue 1, qui a un championnat quand même...
Qui a fait une belle entrée face au Ghana.
Hein. Oui, qui a fait une belle entrée, puis qui a un bon joueur, hein, Boulaya. C'est un bon joueur technique, qui a fait une super saison l'année dernière. Ouais. On parle pas là de, c'est pas pareil que Belaïli, quoi. C'est un joueur qui a la référence Ligue 1.
Ouais, c'est ça.
On connaît ce championnat, c'est un championnat qui on aime ou on aime pas, mais quand même assez compliqué.
Oui, c'est assez dur. Oh,
c'est rugueux la Ligue 1. Ouais. C'est pas facile de s'imposer dans ce championnat. Donc avoir un joueur comme ça quand même, qui même s'il joue à Metz, qui est constamment dans les meilleurs joueurs offensifs, et Dieu sait qu'à la création c'est un poste qui est très compliqué de ne pas signer dans un club un peu plus huppé. Je parle pas de d'un grand club européen, ou voilà, mais ne serait-ce que t'as des clubs comme Montpellier, ça, il aurait largement sa place. Donc, franchement, affaire à suivre. Et là encore, ça pourrait donner l'occasion d'un débat sur les managers, parce que vraiment, un joueur comme ça, s'il annonce quelque part qu'il met fin à son contrat, c'est peut-être parce qu'il n'a pas d'offre. C'est sans doute parce qu'il n'a pas d'offre. Donc, ça met en question aussi le travail de son entourage. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait pour que le joueur puisse trouver un club un peu plus à sa mesure, quoi.
Ouais. Et puis dans cette Ligue 1, il y a quand même un joueur qui en ce moment pète la forme, peut-être parce qu'il a des envies de partir aussi également, c'est Kylian Mbappé, hein.
Ah, Kylian Mbappé, bien sûr.
Ouais, ça veut dire que à mon avis là, il est en train de d'émerveiller tout son monde.
C'est
en
ça.
En gros, préparez-vous pour les 6 derniers mois, quoi.
Ah, en plus il a battu le record il est 3e au classement des buteurs parisiens. Ouais, c'est ça, il me semble. Je crois qu'il est passé devant Carlos Bianchi, si je ne me trompe pas.
Ce qui est énorme, déjà.
Ce qui est énorme.
Devant Carlos Bianchi, c'est ouais.
Il me semble qu'il est pas loin de Zlatan et je crois qu'il a à 50 buts de Cavani.
Ouais.
Bon, ça va être dur d'en rattraper Cavani en 6 mois.
Ouais, oui.
On ne sait jamais, mais ça te place le personnage en quelques saisons.
Et par rapport à son âge aussi, attention. Hein.
Et à son âge, 23 ans.
Ouais.
Et ce que je peux dire, c'est que j'ai regardé, on va en parler juste après, j'ai regardé le Real Madrid hier. Il y a Vinicius qui est en forme.
Mmh.
J'ai ouï dire que Haaland serait plus Barça que Real. Ce qui serait logique si tu veux relancer la Liga, une rivalité d'avoir Haaland.
Oui, bien sûr.
Et Mbappé dans l'autre.
Ouais.
Moi, je dis que sur le flanc droit, je pense que la place d'Mbappé est déjà chaude.
D'accord.
Je pense qu'Mbappé au Real, ça devrait se faire.
Ouais, ouais.
Comme tu as dit, là, il y a des envies d'ailleurs. Mais à mon avis,
Mbappé, Vinicius et Benzema.
C'est ça.
Oh, c'est explosif devant.
Ah, c'est clair.
Bah, oui. On va marquer une première pause, mon cher Sofiane. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce Foot de Sport. À tout de suite. Hein.
Foot de Sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Foot de Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Entraîneur de fou des entraîneurs.
Notre coach national. Grand plaisir d'être là tous les dimanches et de raconter l'actualité.
Pire, tu sais, c'est quoi? C'est que l'Afrique, aujourd'hui, ils ont vu que, à travers le sport, surtout le football, tous les terrains.
Il n'y a pas le même niveau de développement. Je ne veux pas comparer parce que j'ai pas le même niveau de développement
économique. Tu me dis, t'as pas le même développement.
Retrouvez Fou de sport tous les dimanches de 18h à 20h avec Mohamed Marouf sur Beurre FM. À 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Juste un petit rappel, c'est que pendant toute cette émission, nous aurons ce qu'on appelle un fil rouge. Fil rouge, c'est le match en cours actuellement en Coupe d'Afrique des Nations. C'est le match d'ouverture. C'est le groupe A, le pays hôte qui est le Cameroun, qui reçoit le Burkina Faso. Pour l'instant, Sofiane, 2-1 pour le Cameroun, parce qu'il y a eu, un troisième but qui a été refusé suite à l'intervention de la VAR pour une position de hors-jeu.
Alors, qui a été refusé sur le direct, et là qu'on est en train de checker, ça prend une éternité de ce but. Donc, pour l'instant, toujours 2-1, et ça n'a pas repris.
D'accord.
Donc, on est toujours encore en train de regarder.
D'accord, très bien. Donc, la décision n'a pas encore été prise.
Non, toujours pas. Mais c'est incroyablement long.
Bon, écoute, ça veut dire que le match va se terminer. Non, on va pas nous refaire un coup de Algérie Qatar en Coupe arabe. On a eu 18 minutes de temps additionnel. Hein, on va pas le faire.
C'est clair.
Je vais saluer Boula qui vient d'arriver. Bonsoir Boula.
Bonsoir Mohamed. Fait plaisir de te revoir et de voir Sofiane. Cette équipe du dimanche.
Ouais, merci. Ben oui, tu sais bien que on aime bien titiller un petit peu les gens au niveau des sujets. En fait, nous, tu sais bien Boula, on n'est pas dans le résultat immédiat. Bon, le résultat c'est un fait, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse toujours quand on suit les équipes, c'est principalement les clubs, les sélections nationales et également ce que les coachs prennent comme décision. Et moi, j'ai envie de te poser une première question avant de continuer sur la Ligue 1. C'est l'histoire de Hicham Boudaoui. Pourquoi il n'a pas été repris par Jamel Belmadi?
Bah écoute, moi ça m'a laissé un petit peu amer, parce que bon, vu ce qui nous fait dans le championnat de France en D1, et vu que d'après bon moi toutes les discussions que j'ai eues avec Patrick Vieira ou tous les gens qui gèrent le club de Nice me disent que c'est un joueur très discipliné, très éduqué, très 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 avec beaucoup de qualité, gros potentiel. Et bon, j'arrive pas, pourtant, avec tout le respect que j'ai pour Jamel, parce que Jamel, ça reste quand même un des entraîneurs, une figure emblématique du football algérien, et dans le côté intellectuel, dans le côté réflexion par rapport à de tout le système un peu qu'on a vécu au niveau du football, on a retrouvé quand même une sérénité, et dans l'image, Jamel, c'est quelqu'un de très positif en tant qu'entraîneur. Mais ça me laisse un petit peu amer, parce que ce petit Boudaoui qui est sérieux, qui a une discipline totale. Après, je me remonte le moral, parce que je me dis, tiens, bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça permet aussi à Nice de retrouver un joueur et de lui faire confiance, et de sportivement, dans la suite de sa carrière.
Après, il est jeune,
qu'il est un petit peu. Ouais, mais il est jeune. Mais bon, je pense que, à mon avis, il doit être un petit peu amer de cette décision. Et en plus de ça, après Jamel, je pense qu'il a plus géré la gestion des matchs qui au niveau de sa carrière, et je pense que Jamel avait besoin que Boudaoui engrange les matchs du haut niveau, et comme ça peut-être qu'il te le prépare pour la Coupe du Monde.
Oui.
Parce que quand tu vois la Coupe arabe, tu sens qu'il y avait des joueurs qui étaient courts. Physiquement, ils étaient dans les débuts du championnat, ils étaient un petit peu cuits. Heureusement qu'on a des joueurs, qui ont été encore révélés, comme le petit Chetti. Bon, après, on connaît bien Belali. Et je pense que la Coupe arabe, ça a servi aussi à Jamel de faire le point sur tous les joueurs qui jouent au Qatar et de leur donner un peu plus de temps de jeu, parce qu'ils avaient 6 mois, le championnat du Qatar.
C'est ça, oui.
Était arrêté. Et c'était un petit peu la philosophie que Jamel avait mis avec Majid Bouguera dans les décisions des choix, qu'il y a eu beaucoup de joueurs A par rapport à un temps de jeu pour plus les préparer pour la Coupe d'Afrique.
Bah, notamment sur cette histoire, parce qu'on reviendra en deuxième partie tout à l'heure. Pourquoi je parle de ça, c'est parce que Boudaoui, d'abord, c'est un garçon qui est tellement calme, comme tu l'as dit, bien éduqué, il n'en fait pas tout un plat, même si bien sûr au fond de lui-même il doit être déçu, mais je trouve que le garçon n'en fait pas tout un plat, et il fait pas de bruit dans la presse ni rien, il est avec son club, comme tu le dis, bah, Galtier le gère bien, il y a aucun souci. Bah, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, côté marocain notamment, en ce moment, tous les jours, tous les articles qui sortent sur Hakim Ziyech, par exemple, je peux dire que, parce qu'aujourd'hui, Tuchel le fait jouer de plus en plus, il marque des buts, il est bon, et là, le Vahid, tu sais bien, tu le connais bien, Boula, c'est quelqu'un, c'est un dur à cuire, quand il prend une décision, même le roi ne peut rien faire contre lui.
Je pense que un entraîneur comme Vahid, et c'est ça la qualité de Jamel, c'est que Jamel, il a une psychologie qui est différente de Vahid. Parce que quand tu regardes Belali, en termes d'image et en termes de com, c'est un joueur qui a été un petit peu livré à lui-même, qui a eu des problèmes. Et malgré tout ça, Jamel a su tirer le maximum du joueur. Et c'est ça la qualité, c'est ça la qualité d'un entraîneur. Et tu prends un entraîneur comme Vahid, qui est obtus, qui a pas de psychologie, qui est direct dans la critique. C'est comme si tu prends un mec comme Ziyech. Après, Ziyech nous a fait montrer quand même que en Europe, il fait partie des meilleurs milieux côté droit, gaucher, ou avec un gros potentiel. Après, faut pas regarder Ziyech avec Tuchel, parce que Tuchel, c'est un entraîneur qui est très discipliné d'un côté défensif.
C'est un Allemand. Hein.
Voilà, non, mais t'as des Allemands qui jouent au ballon. Mais lui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a pris une tactique où il joue pas au ballon, qu'il a et qu'il attend et choper les joueurs en contre. Et tu prends Ziyech, c'est plus des joueurs offensifs. La liberté que les joueurs ont avec Guardiola n'ont pas la même liberté qu'avec Tuchel. Et je pense que le problème de Ziyech et Tuchel, c'est le plus le problème tactique défensif ou que bon après c'est le système français et le système Deschamps, le système Tuchel, c'est un petit peu le même système de jeu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la gagne, ils veulent pas le spectacle.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui.
Et voilà, quand je te réponds par rapport à Ziyech, il est plus dans cette situation. Et puis je trouve ça dommage qu'en Europe, il fait partie des meilleurs joueurs marocains et qu'on le boycotte comme on l'a bien boycotté. Maintenant, certes, ils ont tous des problèmes dans leur façon de vivre, que ça soit Ziyech, que ça soit Yatal, que ça soit
est-ce que j'aime chez mais c'est normal, un joueur a besoin d'avoir un peu de caractère.
Ce que j'aime chez Jamel, c'est que Jamel, c'est quelqu'un de très pieux, très religieux, mais il a quand même cette psychologie de d'essayer de prendre ses joueurs et les aider psychologiquement à comme tu prends le petit Mahrez, pareil, c'est des gens, tu regardes dans leur communication, dans leur image, il leur manque un petit quelque chose pour être le joueur parfait en termes d'image. Et c'est ça le problème, que ça soit Atal. Mais ça, je félicite Jamel parce que il a cette psychologie de les aider pendant le stage et les faire comprendre. Et eux, ils ont cette stabilité avec Jamel ou qui sont obligés d'adhérer au collectif. Comme Ziyech peut adhérer à Vahid dans ce truc-là. Et je pense que Vahid, il a le don, qu'il a aucune psychologie.
Et c'est connu de toute façon, c'est vrai.
Ça avait commencé au Japon, on se rappelle.
Oui, sauf qu'avec les Japonais, ça n'a pas marché.
Ouais, avant la Coupe du Monde, au revoir,
c'est
monsieur.
Ils l'ont viré.
Oui.
Le pire, c'est que les Japonais, c'est quand même un pays très discipliné.
Ah oui.
Un pays très, très, très intelligent. Encore, tu regardes le Japon, ce qu'ils lui ont fait. Après, c'était un petit peu dur pour lui, tu vois. Même nous, on a trouvé ça un petit peu dur. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il a les mêmes problèmes partout.
Après, faudra Vahid, on jugera du coup. Et on le juge de paix, ce sera cette CAN.
Oui, mais tu juges, même si tu le juges par à travers cette CAN, moi, personnellement, aujourd'hui, il est vite jugé. Parce que tu ressens qu'il a les mêmes problèmes. Mmh. Il a les mêmes problèmes. Le Maroc, il est en train de faire des belles choses avec le Maroc.
C'est vrai. Il faut reconnaître quand même. Voilà. En termes de travail, l'équipe a bien réussi, etc. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'on verra en deuxième partie, quand on va parler de l'Afrique, où le Maroc, sur le papier, fait partie de ses grands favoris. Car l'équipe n'encaisse pas de but. Défensivement, c'est la meilleure des défenses africaines. Ça vaut le coup de parler. Mais on va rester dans notre championnat, mon cher Sofiane. D'abord, aujourd'hui, avec ces reports de matchs, alors, quelles sont les équipes aujourd'hui qui tirent un peu plus vers le haut et celles, malheureusement, pour qui on va dire que le purgatoire, c'est-à-dire la Ligue 2, est quasiment acquise, quoi. Voilà.
Alors, si on reprend rapidement, t'avais un match hier, donc on a parlé de Bordeaux-Marseille, vendredi soir, il y a eu Lens-Rennes, donc un choc un peu plus haut au niveau du classement, qui a été gagné par Lens un peu avant la fin du match. Ouais. Donc cette équipe de Rennes qui était un petit peu l'attraction de la fin d'année, est en train de rentrer dans le rang.
Oui.
Et ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a un petit écart qui s'est déjà fait au classement entre Paris, qui a 10 points d'avance, sur Marseille et Nice, qui ont tous les deux 36 points. Et il y a 5 points, 31. Donc 36-31 avec le quatrième qui est Rennes.
D'accord.
Voilà. Donc et sachant que Montpellier qui devait jouer aujourd'hui a eu son match reporté face à Troyes parce que pour cause de Covid. Ouais. Ensuite donc là la situation au classement elle est celle-ci. Donc t'as pour l'instant Paris premier, Marseille Nice et derrière ça tourne autour des 30 points. Mais il y a un petit écart déjà qui a été fait au classement.
Ça décroche.
Voilà. En sachant que Marseille a toujours son match en moins, joué contre Lyon. Entre parenthèses.
On sait pas quand. Hein.
On sait pas quand, Marseille a fait des recours pour avoir le match gagné, enfin c'est mais on sait pas en tout cas quand est-ce que ça va jouer parce que les deux équipes sont en plus engagées en Coupe d'Europe donc ça va être très compliqué de trouver une date en 2022.
Oui, mais justement avec ce calendrier que ce soit pour les clubs, pour les sélections, je le vois bien tout en sachant que au mois de mars on aura aussi les matchs de barrage Coupe du monde, que ce soit pour l'Europe et pour l'Afrique. Mm-hmm. On va se retrouver avec encore une nouvelle fenêtre FIFA de 8-10 jours. Comme tu le dis, il faudra bien trouver une date pour harmoniser tout ça. C'est pas gagné.
Ça va être très compliqué. Ça va être très dur. Et c'est pour ça que quand il y a eu les incidents en tribune, on disait qu'il fallait trouver des solutions plus dures parce que justement il y avait ce si à chaque fois qu'en gros les supporters d'un club déconnent, tu rejoues le match, tu t'en sortiras pas en termes de date quoi. C'est un gros problème hein, parce que là avec les comme t'as dit les coupes d'Europe, les barrages et l'enchaînement de matchs qu'on va avoir sur les 4-5 prochains mois. Bon courage pour trouver une date, ça va être.
Après, t'as deux gestions, t'as la gestion de la Fédé et la gestion de la Ligue.
Ouais, mais c'est ça.
La Fédé, ils ont envie de trancher. Les
pour
deux.
Paris FC Lyon, ouais.
On a bien vu, ouais.
Là, voilà, la Fédé, ils ont pas rigolé. C'est sûr que quand tu vois des par rapport à tout ce qui s'est passé, la Fédé, ils avaient pas envie de retrouver cette situation. Cette situation. Et puis bon, je pense que la Fédé, c'est quand même les patrons du football français et ils ont montré à la Ligue que fallait intervenir.
C'est clair.
Et après, bon, c'est les problèmes du classement quand tu dis, t'as Marseille qui talonne Paris et aujourd'hui, quand tu regardes, dans les résultats, ils sont cohérents, ils ont pas encore l'équipe qui doit être, comme il dit le coach, il leur manque 4-5 joueurs. Puis l'équipe qui devait être derrière Paris, c'était Nice.
Ouais.
Et je pense qu'il a perdu quelques points au niveau dans ses choix, quand tu vois qu'à un moment donné, contre Paris, il n'avait pas mis Attal, il n'avait pas mis Amine Gouiri, il n'avait pas mis, c'est malheureux à dire, il avait mis des joueurs, il a essayé de faire un peu du copinage. Je pense qu'il n'a pas bétonné.
Ils ont fait 0-0.
Il n'a pas bétonné. Après, à un moment, preuve, tu te retrouves dans une situation où tu perds contre Metz chez toi.
C'est incroyable ça, ouais.
Ouais, mais quand tu perds contre Metz chez toi, c'est évident. Ça veut dire que quand tu ne fais pas des choix, les joueurs ne sont pas bien. Et les choix qui ont été faits, quand tu vois qu'un joueur comme Amine Gouiri, qui est un des meilleures qualités offensives de Nice, j'arrive pas à comprendre comment tu peux le laisser sur la touche pendant deux matchs.
Je pense qu'avec lui, il le fait jouer comme ça en concurrence avec Dolberg.
Non, il ne fait pas jouer en concurrence avec Dolberg. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, ils ont gagné 3-0, c'était Dolberg et Amine Gouiri.
Oui,
parce qu'il avait compris.
Oui.
Il voulait pas, parce que d'habitude, il mettait Dolberg dehors.
Oui, c'est ça.
Comme c'est, il y a un côté familial et un côté.
Oui, on est d'accord.
Et à un moment donné, je pense qu'il est revenu à la raison. Il était remplaçant. Il a marqué Delors. Je pense que les deux joueurs les plus importants devant, c'est Dolberg et Amine.
Ouais. Alors, juste Boulop, petite précision. Nice pour l'instant est deuxième à la différence de but.
Oui.
Mais Marseille a un match en moins. Donc pour l'instant, ton pronostic. Et se tient.
Ah non, mais bon, après, la qualité, mais je pense que tu prends un mec comme Galtier, il a une pression terrible à Nice, hein, parce que.
L'argent, l'investisseur derrière.
Oui, anglais, ouais.
Le problème, c'est que même avec Julien Fournier, à un moment donné, les choix qu'il a fait, normalement, il devait. Quand tu me dis, ils sont deuxième avec quelques points, mais je pense qu'ils doivent pas perdre contre Metz. C'est ces matchs-là, à la fin, tu calcules, c'est les deux petits points qui te manquent, peut-être pour faire la Ligue des Champions.
Toujours.
Ouais. C'est les deux petits points. Et le football, c'est que des détails.
C'est vrai.
Très bien. Deuxième pause, et puis on se retrouve dans un instant avec notamment ce fameux record de Karim Benzema.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
Du 9 janvier au 6 février 2022, Beurre FM se met à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations. Retrouvez toutes les semaines vos rendez-vous avec le football africain. Football africain. Tous les jours, la minute sport dans la matinale à partir de 7h. Time Foot de 20h à 21h. Et tous les dimanches dans Food Sport de 18h à 20h. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 9 janvier au 6 février 2022. Beurre FM, au cœur de tous les grands événements. Tous les grands événements.
Jusqu'à 20h. Food Sport. Sur Beurre FM.
Et on arrive à ce fameux record, mon cher Sofiane. Karim Benzema, plus il prend de l'âge, plus on a envie de le voir jouer, plus on a envie qu'il ne prenne pas sa retraite. Parce que quand je le vois jouer, je vois une œuvre artistique. Le mec en lui-même, il est une œuvre artistique. Exceptionnel.
Et le deuxième but qu'il met hier contre Valence, c'est un but, c'est encore un chef-d'œuvre en technique. Ouais. Hein. Dans la rapidité d'exécution, dos au but. Moi, je vois l'action, je pensais que c'était le défenseur qui n'était pas, au duel, mais en fait, c'est Benzema qui fait tomber parce qu'il fait une feinte assez incroyable. Il se retourne, il marque. C'est un joueur qui sait tout faire et qui marque dans n'importe quelle position. Alors, il passe le cap des 300 et il est sur la quatrième marche des meilleurs buteurs de l'histoire du Real. Alors, est-ce que tu saurais me dire les trois premiers ou Boula, je sais pas.
Alors, parmi les premiers, je vais essayer. Hein.
Vas-y.
Bon, je me mouille. Peut-être Di Stéfano.
Il est juste devant lui.
Il est juste devant
Di Stéfano. Troisième place.
Donc, je pense aussi à Emilio Butragueño.
Non.
Il n'y est pas.
Raoul,
est pas.
Je crois.
Raoul.
Raoul, bon, exactement. Deuxième.
Deuxième.
Ouais. Et premier.
Cristiano.
Et c'est ça, exactement. Voilà. Et Benzema est à 7 buts de Di Stéfano, il y a 23 buts de Raoul. D'accord. Donc il peut rejoindre la deuxième place de l'histoire des buteurs du Real Madrid dès cette saison. Et ce qu'on peut lui souhaiter, parce que tu parles de son âge, moi j'espère que... Enfin, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'à son palmarès, il lui manque cette Coupe du Monde 2018 qu'il aurait dû remporter. Mais il faut espérer que la prochaine, ça va être compliqué parce qu'il y a des grosses sélections, mais que
l'équipe de France, attention, ouais, mais du rien, si ça reste costaud. Hein.
Moi, je pense que s'il n'a pas eu cette Coupe du Monde, je pense que c'est pas de sa, c'est pas dû à sa gestion de sa carrière. Je pense que il avait tout faux et après il y a eu un problème plus politique.
Oui, exact.
Que la preuve, regarde, quand tu le regardes, 5 ans après, on lui dit bon, tu reviens. Encore, il a l'intelligence et c'est pour ça qu'il continue à marcher. Il a l'intelligence de revenir et cette force de caractère. Comment tu peux être tricard pendant 5 ans et arriver dans une situation de dire
je reviens en équipe de France.
Et le pire, c'est qu'il est bon en équipe de France. Bien sûr. Il leur fait gagner. Bon, après, il est
la Ligue des Nations,
seul. Il leur fait la Ligue des Nations.
Il est pote avec Mbappé en plus.
Ouais, il est complice
sur le terrain.
Je pense qu'il est plus complice avec Mbappé parce que Mbappé a beaucoup d'estime de Karim par rapport à ce qu'il fait au Real et par rapport à ce qu'il est. Un truc comme il a dit, il l'a dit bien, Kylian par rapport à. Et je pense que Kylian, comme il est plus jeune, je pense que le choix qu'il fera, je pense que c'est plus un choix jouer avec le Real de Madrid.
Ouais.
Moi, je pense que c'est plus un choix de jouer avec Karim. Et je pense que le bien pour Kylian, quand tu vois la gestion aujourd'hui, quand tu vois Messi ou quand tu vois Messi, et ça donne pas envie à Kylian de re-signer à Paris. Ouais. Parce que je pense que Kylian c'est un joueur c'est un compétiteur, c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait où il va. Bon, mis à part que quand il nous a montré qu'il était en train de se vacciner, je pense que c'est pas le sujet du foot. Je pense que c'est plus le sujet des.
Oui, pour sensibiliser aussi, attention. Hein.
Oui, mais sensibiliser, je pense que les seuls qui peuvent nous sensibiliser, c'est les médecins et les scientifiques. Oh. On irait plus à écouter les médecins et les scientifiques. Quand Salas met une position, faut pas, à un moment donné, prendre le foot, le prendre en otage à travers sa gestion médicale. Moi, je suis pas médecin. Je pense qu'à un moment, t'as une fille qui est médecin. Oh. Elle peut avoir plus de réflexion par rapport au monde et par rapport à la société.
C'est sûr. par contre, du coup, alors quand on parle de Karim Benzema, c'est aujourd'hui la référence, quand bien même on l'a déclassifié dans ce fameux, je ne sais même pas si je peux appeler ça ballon d'or, je l'appellerai, c'est un ballon autre. Voilà.
Après, Momo, quand tu vois les performances de Benzema, c'est là où qu'à un moment donné, il y a un truc qui joue, c'est l'intégration. L'intégration. Quand tu vois le Real avec Karim, tu sens qu'il est complètement intégré.
Ah oui.
Tu sens que il y a quelque chose. Et quand tu vois, c'est comme il m'a dit Daniel Relo, il m'a dit en parlant de Mahrez, il me dit mais Boula, si admettons le restait en France, il serait pas Mahrez aujourd'hui.
C'est vrai.
Alors oui, si ça n'avait pas été, si là, tu prends même un mec, je vais te donner un exemple, tu prends même un joueur comme comment il s'appelle, Ribéry, Franck. Oh. Tu regardes Franck, ce qu'il est devenu en Allemagne, au Bayern. C'est devenu quand même une figure du football allemand en termes étrangers. Et puis c'est là que quand Tariq Ramadan parle à Zemmour, il lui dit mais il faut que vous appreniez à nous intégrer. Mmh. Et là tu sens que les Allemands, ils intègrent Ribéry et tu penses que, et Benzema, le Real intègre. Et c'est là où ça joue les performances d'un joueur. Quand tu regardes un joueur comme Fekir, aujourd'hui on n'en parle pas. Pourtant il fait un championnat exceptionnel. Il fait un championnat exceptionnel. Et
pourtant, en équipe de France, il ne sert que de route de secours. Hein, de temps en temps, quand Didier Deschamps a besoin d'un joueur comme ça, en complément, mais sans plus. Hein, mais sinon, voilà, Deschamps a un groupe. Fekir, c'est, passez par l'expression, c'est un bouche-trou.
Et après, c'est pas pareil. T'as l'image de Fekir qui est quelqu'un de casanier, qui est religieux, où t'as des valeurs. Bon, Benzema, c'est quelqu'un qui sort, qui se montre dans les médias, qui se montre dans les réseaux. Tu es Nabil, tu le vois pas dans les réseaux. Tu le vois pas
ça,
dans
c'est
les
vrai.
Réseaux.
Ça, c'est vrai.
Et c'est là que Benzema, ou cette force, et on peut remercier un mec comme Zizou qui l'a bien accompagné entraîneur. Oui, et puis sûr. Quelqu'un comme Florentino Pérez. Et c'est ça qui est bien dans le Real de Madrid, c'est que, à travers Benzema, ils ont pas d'a priori de ces valeurs religieuses ou de ces valeurs. Ils sont là, ils respectent le joueur, ils respectent l'humain, ils respectent le sportif. Et ça, t'as le même cas à Liverpool avec Klopp qui intègre complètement. Et quand tu regardes la synthèse qu'ils ont fait à Liverpool, aujourd'hui t'as plus le racisme, il est grâce à Salah et l'image qu'ils ont. Et ben Liverpool, ils intègrent plus des joueurs comme Salah dans la ville de Liverpool. Et c'est ça qui est bien. Et Benzema, Benzema, voilà, c'est, tu vois, les performances de Benzema, c'est dû à ce respect de ce gamin, ou qu'à un moment donné,
d'ailleurs Boulet, tu as raison sur un point, parce que là tu as soulevé un problème que nous avons abordé souvent ici dans cette émission Foufou du sport, notamment où ces joueurs dits maghrébins, mais qui, en fait, qui sont à la base nés en France, grandis en France, mais qui, au moment de quitter la France et de partir ailleurs, ils réussissent, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, parce que dans ces pays, on intègre aussi le fait religieux du joueur. Ils regardent le volet, mais c'est... On a fait ce constat. Il y a beaucoup d'Algériens qui réussissent bien, par exemple.
Oui, mais Mohand, c'est
l'Italie.
C'est pas dû à la France, parce que les Français, à un moment donné, en 98, tu regardes en 90 quand ils ont formé les Zidane, les Benarbia, tout ça, tu sens qu'il y avait une intégration qui était fluide. Tu sens qu'il y avait un truc. Et comme le monde change au niveau politique, les valeurs que la France avait, et je pense que il y avait des valeurs en 98, et là t'as ressenti vraiment quelque chose où tout le monde se respectait, tout le monde regardait pas si t'étais musulman ou t'étais chrétien ou juif ou, et ce qui est bien, c'est cette génération, quand on parle déjà génération 98, et ben tu sens qu'il y avait Black Bomber, et puis c'était vraiment l'histoire de la France. Et quand tu regardes aujourd'hui,
on va dire.
Après quand tu regardes aujourd'hui un petit peu la montée politique à travers le football, ou des mecs comme Valls qui étaient des mecs de gauche, parce que c'est des mecs de gauche, à l'arrivée qui se permettent de critiquer les joueurs. Moi, quand je regarde le handballeur, comment il s'appelle,
Dim Remili ?
Non, Karabatic.
Oui.
Je pense que quand Karim a été sectionné, on a plus sanctionné Benzema que Karabatic.
Tout à fait.
Et Karim Benzotic, c'était quand même la Française des Jeux, c'était quand même quelque chose de quand même.
Oui.
On l'a plus protégé. Benzema, on l'a pas protégé, on l'a en enfoncé. Après, je te cache pas que j'aime beaucoup Karim, j'aime beaucoup. Je pense que ce côté petite banlieue, ou que il est tombé dans le piège. Je pense que c'est pour les futurs jeunes qu'il y a. À un moment donné, faut pas confondre l'amitié des quartiers et l'amitié du travail et l'amitié professionnelle.
Vous savez, alors ce que je me suis promis, puisque j'ai eu l'occasion de voir ça à Rouen avec un spécialiste, un très grand spécialiste, un médecin. Il est spécialiste de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Il est même contacté par plusieurs clubs de Ligue 1. Alors, ça concerne notamment les joueurs, principalement les nôtres. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà 25-26 ans. On parle, attention, des gamins qui ont 15-16 ans, qui intègrent les clubs. Et de par leur comportement souvent, pardon, il y a ce qu'on appelle des problèmes de signature dans les contrats, parce que quand le gamin vient derrière, t'as toute la famille, etc. et tout. On prend le cas le plus flagrant, qui est c'est Hatem Ben Arfa, le surdoué du ballon, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, parce que derrière, on n'a pas vu en lui un être humain, on l'avait en lui un compte en banque. C'est ça, c'est malheureux. Voilà.
Après, quand tu me parles de Hatem, je pense que la fracture entre ses parents, surtout son père et lui, je pense qu'il y a une fracture un petit peu mal gérée par son agent.
Oui.
Je pense que aujourd'hui, tu regardes, on dit à des joueurs, non, moi je veux pas parler avec ton père, je veux parler avec toi. Bah, c'est plus facile de manipuler le gamin que le parent. Et je trouve que moi, dans ma gestion, quand je travaille avec des joueurs, je voudrais avoir les parents. Je veux pas couper.
C'est important, surtout quand ils sont jeunes,
là. Et là, ce qui est bien. Avec ton ami de Rouen, il a mis le doigt où il fallait. Je pense que à partir de 14-15 ans, mais ça c'est plus les clubs amateurs. Aujourd'hui, maintenant tous les clubs amateurs font du business. Les éducateurs se mettent au milieu des dossiers.
Tout à fait.
Et c'est là que le travail n'est pas fait au niveau de la fédération ou de la ligue.
C'est exactement de ça qu'il m'a parlé.
Au niveau de la fédération ou de la ligue de Paris.
Ouais.
Je pense que Jamel est assez compétent là-dedans pour mettre le doigt où il faut. Bon, c'est sûr que tu vas mettre des règlements. Moi, j'estime que normalement, aujourd'hui, t'as les clubs pro et puis t'as les recruteurs. Les recruteurs aujourd'hui, ils sont très embêtés à cause des intermédiaires. Une fois le petit, il a plus écouté son éducateur que son père.
Ouais.
Son père voulait le mettre à Marseille. Finalement, ils l'ont mis à Caen. Ils l'ont mis à Caen et c'est pas son père qui a décidé avec le petit, c'est l'agent qui a décidé avec le joueur.
Et c'est pour ça d'ailleurs, il m'avait dit, le plus important quand on parle de l'entourage du joueur, il faut qu'il y ait une symbiose entre ceux qui sont là pour le recrutement et ceux qui sont là pour son éducation, savoir les parents. Il faut qu'il y ait une vraie symbiose entre les parents, on va dire l'agent si tu veux, et le gamin. Sinon, à un moment ou à un autre, il va y avoir la fracture et souvent, malheureusement, au détriment du gamin.
Mais après, t'as les recruteurs des clubs pro aussi qui disent
au
gamin,
pareil, oui.
Si tu signes pas avec cet agent, je peux pas te prendre.
Alors, ah, ça, oui.
Il y a eu un ou deux conflits que je connais.
Ouais.
Et je sais que c'est des situations vis-à-vis du joueur et vis-à-vis du club pro et vis-à-vis du club amateur. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de la part de certains recruteurs pro. Moi, si demain, il y a un petit qui est à Montfermeil, qui est pas mal, qui a des qualités, j'ai vu, je l'ai sollicité. Bah, il a pas voulu donner ma carte à son père. Moi, j'ai pas pu rentrer en contact avec le petit. Oh. Bah écoute, c'est pas grave. Après, je suis passé à autre chose. Le mec de Marseille, le gars de Marseille, il m'a appelé, mais il m'a dit, Boula, je te préviens, je vais le convoquer, tout ça. Je dis, écoute, j'ai fait le nécessaire pour que rencontrer son père, j'ai pas pu, mais fais ton travail. Moi, j'en vois pas d'inconvénient. Finalement, le joueur n'a pas été envoyé sur le recrutement à Marseille. Alors, je sais pas si je suis pas au courant aujourd'hui si le père n'est au courant ou pas au courant.
Voilà. Très bien. Avant de finir cette première heure, juste pour rappeler à nos auditeurs que nous suivons actuellement toujours dans ce fil conducteur le match Cameroun-Burkina Faso. Pour l'instant, on est presque à la fin de la rencontre.
Il a refusé le but.
Oui, il a été refusé, donc 2-1, ouais. Toujours pour le Cameroun. On est dans le temps additionnel, attention.
Hein. C'est ça. Ils vont égaliser.
Ouais.
Hein? Ils vont égaliser.
Ah, ben bah, écoute. On va voir. Hein.
Écoute, on verra. Tu sais, aujourd'hui, les matchs, souvent, il y a beaucoup de buts qui arrivent dans le temps additionnel. Hein. On n'oublie pas un certain Algérie-Qatar à la seconde. Ah. La combien 118e.
Il y en a même eu deux, des buts dans le temps additionnel.
Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le temps additionnel, vous avez la possibilité de marquer. Oui, alors je voudrais, Sofiane, rapidement, avant de finir cette première heure, revenir notamment sur ce que disait Boula tout à l'heure, avec une équipe qui est ingérable, comme le sont les stars de Paris. Ce soir, justement, il y a ce beau duel Lyon, qui est sans doute l'une des plus grosses déceptions de ce championnat, qu'on attendait beaucoup, et finalement, on a un Lyon-Paris Saint-Germain. Est-ce une occasion pour, on va dire, sortir enfin la tête de l'eau, quoi. Voilà.
Écoute, oui, c'est une occasion, parce que souvent Lyon est bon dans les gros matchs, et que ce PSG, depuis le début de la saison, est finalement assez inconsistant sur ce qu'il montre sur le terrain, avec un entraîneur qui est apparemment des informations qui sortent assez déjà des envies d'ailleurs. Et dont on voit qu'il n'arrive pas à imprimer sa marque sur son équipe. Après, moi, sur cette histoire de PSG, club ingérable, tu sais, le problème de Paris, c'est que...
Trop de stars, peut-être.
C'est ça.
Regarde, t'as qu'à voir le Sud-Américain, ils font ce qu'ils veulent.
C'est-à-dire
t'as l'impression qu'ils s'en foutent du club, de l'identité du club. C'est impressionnant. Je suis écœuré, quoi.
Ça, c'est l'échec de Leonardo, qu'on nous avait vendu comme étant le Messi quand il est revenu. Et qui, pour l'instant, n'a pas réussi à mettre de l'autorité dans le club. Et après, le souci, effectivement, ce que tu dis, Mohan, sur les stars, entre guillemets, stars, qu'est-ce qu'une star? Ce sera intéressant, ce sera un vrai débat. Mais le problème, c'est que les clubs qui réussissent aujourd'hui en Europe, dans le football, c'est les clubs comme Liverpool, c'est les clubs comme le Bayern de Munich, c'est les clubs comme Chelsea, qui ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs qu'on ne connaît pas, qui donnent les pleins pouvoirs à un coach, et c'est le coach qui a autorité sur le vestiaire. Là, le problème, c'est qu'on a un club qui, malheureusement... Alors moi, je me souviens, parce que tu parlais de Daniel Riolo, qui disait à l'époque, quand le PSG était acheté par le Qatar, c'est un truc que je trouve très vrai. Finalement, le Qatar a reconnecté Paris avec son histoire, c'est-à-dire Paris, la ville lumière et les stars, les paillettes, quoi. Maintenant, je me demande si c'est possible, connaissant l'identité de ce club à ce niveau-là, c'est-à-dire le club paillettes, le club star, la ville lumière, etc., d'avoir des besogneux comme il y a dans ces clubs-là, comme Chelsea, comme à Liverpool ou comme au Bayern de Munich. Je pense que c'est compliqué. Donc, je pense que c'est dans la nature du club finalement d'être comme ça, quoi.
Après, quand tu regardes Liverpool, ils ont eu leurs problèmes.
Ouais.
Après, ils ont réussi à trouver vraiment le manager général qu'il fallait.
Ouais, c'est vrai.
Après, c'est le problème du football, c'est de trouver le manager général qui va avec. Mais par contre, les actionnaires de Liverpool ou les actionnaires de City ou les actionnaires de United, ils ont une intelligence à un moment donné de donner la clé au manager général et de gérer le club. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu prends le PSG. Ce gros problème, c'est que je pense que Leonardo, il n'est pas responsable de l'attitude de Messi et l'attitude de Neymar. Après, Leonardo, il n'est pas là pour dire les discussions qu'il a avec le Chir ou avec Nasser. Aujourd'hui, le Chir ou Nasser, parce que c'est eux qui acceptent que Messi est encore en Argentine. C'est eux qui acceptent, parce qu'ils le savent. Il y a des décisions que le Chir il sait les prendre dans le monde entier pour faire marcher son pays, pour gérer l'argent de son pays, il sait les prendre. Mais là, dans la gestion du football, tu gères pas le football par l'argent, tu gères le football par l'humain. Et aujourd'hui, le football, il est plus PSG, il est plus géré par l'argent que par l'humain.
Exactement.
Et c'est ça le gros problème de Paris. Moi quand je vois Messi qui est pas là, ou quand je vois, on me dit ouais, l'autre il a le coronavirus, et l'autre il est blessé.
Oui.
J'estime que quand t'es blessé, t'as un staff médical. Et le staff médical, c'est un des meilleurs du championnat de France. Ils ont mis les moyens, ils ont pris Dr Baudot. Tu vas pas me dire que Dr Baudot, il peut pas gérer le médical de Messi, il peut pas gérer le médical de Neymar. Il fait partie quand même des meilleurs médecins du championnat de France. Et un grand, grand, grand médecin. Et aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont pas là, tu sens que c'est quoi? C'est le club med, c'est le club à ta mère, à ton père, je sais pas, moi.
Oui, à part les parties de poker sur Internet, enfin, en tout cas, on les voit bien dans les pubs. Merci, Boula, merci à Sofiane, fin de cette première heure, dans un instant spécial, Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est l'heure du grand dossier. Bien entendu, vos appels sont les bienvenus. Du côté du standard, 01 53 48 3000. Et effectivement, on va parler de Coupe d'Afrique des Nations.
Les dossiers de Fou de Sport.
Vous allez voir, dans cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations, au-delà des matchs, au-delà de l'historique, des joueurs, des comportements, eh bien, on va faire un historique. Comment le Cameroun est arrivé finalement à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été très compliqué jusqu'à la dernière minute, les bâtons dans les roues. Je n'oublie pas une chose, c'est qu'à l'époque où le Cameroun a été désigné candidat et qu'à un moment donné on a voulu leur retirer la CAN, nous-mêmes ici à Beurre FM, nous les avons soutenus. Bien sûr. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je ferai un petit rappel à nos amis camerounais. On va leur envoyer un petit message pour qu'ils comprennent que nous avons toujours été derrière eux. On va envoyer un petit message à notre ami Manu, qui est aujourd'hui à côté de Samuel Eto'o, j'en suis persuadé. Mais le plus important dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'abord, on va commencer par le premier match d'ouverture, juste pour rappeler, Sofiane, le score final de Cameroun-Burkina Faso.
Et le Cameroun qui s'est imposé donc 2-1 face au Burkina Faso. Donc comme on l'a dit, tout a été fait, tout s'est joué en première période avec l'ouverture du score des Burkinabés sur un coup de pied arrêté. Et le Cameroun qui, en 5 minutes juste avant la mi-temps, en 40 et 45e minute précisément, inscrit 2 buts sur pénalty. Alors un match arbitré par un trio arbitral algérien et un match qui s'est déroulé avec l'assistance de la vidéo. Donc voilà, le Cameroun qui, organisateur, remporte son premier match. Dans le jeu, c'était pas convaincant. On se rappelle cette équipe du Burkina Faso qu'on a joué il y a pas longtemps. C'est pas mal du tout, d'ailleurs.
Oh oui.
Avec un petit imbroglio, parce que les Burkinabés étaient pas très heureux, tu sais, de cette histoire de test où apparemment, il y a des gens qui sont venus les tester à la veille, mais qui n'étaient pas mandatés par la CAF. Donc, qui sait qui les a envoyés? Et qui a fait que, t'as quatre joueurs cadres apparemment du Burkina qui n'ont pas pu jouer. Donc, cette arme-là du test Covid pour empêcher les joueurs de jouer qui a été dénoncée.
Non. Là, Sofiane, Eva, j'ai besoin de me remettre un petit peu, là.
Oui.
Tu me dis que on vient faire passer des tests sans l'aval de la commission médicale de la Confédération africaine de football pour savoir si ces personnes sont habilitées. C'est grave. C'est un fait inédit.
C'est ce qu'a dénoncé en tout cas l'entraîneur du Burkina adjoint et le capitaine, enfin ancien joueur de Lyon, Bertrand Traoré, qui a dit qu'il y a des gens qui se sont présentés à leur hôtel pour les tester. Et que le staff burkinabé a instamment demandé à ces gens est-ce qu'ils étaient mandatés par la CAF et de produire les documents qui pouvaient.
Ce qui est normal.
Et apparemment, ces gens-là n'ont pas produit ces dix documents leur accréditation.
Et ils peuvent refuser à ce moment-là le test.
C'est ce qui s'est passé. Ils ont refusé le test.
Oui, c'est normal.
Ils ont retesté le lendemain. Et apparemment, ça, c'est déjà ce qu'a dénoncé Bertrand Traoré. Et donc, du coup, le entraîneur adjoint, c'est des magouilles pour faire en sorte qu'en fait, via les tests Covid, on ait des joueurs cadres absents dans la sélection burkinabé.
Ouais.
Donc, déjà avant le match, c'était assez tendu.
Très bien. Alors, juste pour rappeler également que le buteur, celui qui a marqué les deux pénaltys, s'appelle Vincent Aboubakar. Alors, juste pour rappeler l'histoire de ce garçon. Vincent Aboubakar est un garçon que j'ai découvert en 2009 lors de la CAN des U17 en Algérie. Il était l'avant-centre des Camerounais et pendant tout le tournoi, il a marqué 0 but. Et je me souviens du regretté Jacques Roux qui me disait « Mais mon cher monde, des garçons comme ça, le Camerounais l'en produit tous les jours. Mais regarde, il a les pieds carrés, il ne s'est même pas tiré au but. » C'était un Camerounais qui critiquait un Camerounais. Hein. Je me souviens très bien, Boula. Et finalement, quelques années après, on l'a recruté. Il a notamment joué à Valenciennes. Il a joué au Portugal, je crois, au FC Porto. Donc, c'est quand même un garçon qui a, mine de rien, par la suite, qui a roulé sa bosse et qui est toujours là. C'est-à-dire que, vous imaginez, depuis 2009, nous sommes en 2022, 13 ans après, et eh ben, aujourd'hui, il doit avoir la trentaine, Vincent Aboubakar.
Il a 30 ans. Voilà. Il va avoir 30 ans, là.
Oui, puisqu'il avait à peine 17 ans lors de cette carte.
Après, c'est des profils de joueurs. Après, quand il dit, ouais, c'est un Camerounais qui critique un autre Camerounais, moi, si demain, je vois un Algérien qui a les pieds carrés, je vais dire que c'est pas parce que l'Algérien, je me permets de le critiquer.
Oui.
Maintenant, c'est vrai que t'as des joueurs qui font des carrières, parce qu'ils sont puissants, ils vont vite. Et c'est vrai que dans les lacunes techniques, quand tu regardes Lukaku, c'est un buteur, mais tu sens que c'est un mec, c'est pas un grand, c'est pas Eto'o ou Georges Weah.
Oui.
C'est pas voilà.
C'est un bulldozer.
Voilà, c'est un bulldozer. Et aujourd'hui, tous ces entraîneurs ont besoin d'impact physique pour faire les décalages dans le haut niveau.
Bah, surtout qu'il court vite. Hein, il est grand, il est paraté, il court vite.
Après, hein. Il joue avec sa vitesse et sa puissance, comme pas mal de grands défenseurs. Et
puis comme c'est pas interdit pour lui de progresser techniquement, voilà, il passait de rien à pas mal.
Avec Guardiola, des joueurs comme ça, il n'en a pas.
Non, pas du tout.
Oui. Grand puissant, non, rien. Bah, il met De Bruyne devant. D'ailleurs, ça a occasionné un débat entre avec Nasser Sanjak la semaine dernière sur De Bruyne, Mahrez. Est-ce que c'est le même profil ou pas? Je pense que non, mais d'après Nasser, c'est comparable.
L'autre, Mahrez, c'est plus un 9,5 et De Bruyne, il peut décrocher sur les défensifs pour faire le jeu. De Bruyne, c'est dans le profil de Zidane, dans sa façon de jouer.
Super joueur.
Il sait jouer avec les autres. Il s'est pas donné à tous les numéros 10. À l'époque, ça aurait été un grand numéro 10 parce que c'est exceptionnel, De Bruyne.
Parce qu'aujourd'hui, des 10, on n'en voit plus, Boula.
On n'en voit plus parce que aujourd'hui le système tactique il a changé. On joue plus avec un 10, on joue avec un couloir droit, couloir gauche, en 4-2, voilà, des 6, des 8. C'est pour ça que des joueurs comme N'Golo Kanté où il a explosé, c'est avec un entraîneur étranger. Il a vu que son joueur, il avait une qualité technique hors pair, parce que quand ils l'ont vendu à Leicester, personne, même Marseille et Lyon ou Paris, ils ont mis sur N'Golo Kanté. Aujourd'hui, quand t'as Leonardo qui dit N'Golo Kanté, c'est un des meilleurs numéro 6 du monde, ouais, mais bon, le meilleur numéro 6 du monde, quand t'es arrivé à Paris, tu l'as pas récupéré. Ouais. Après, c'est des joueurs. Après, les grands entraîneurs comme Ranieri qui était à Leicester, lui qui l'a fait exploser comme il a fait exploser
Mahrez.
Et puis
l'autre part qui ne pas
je suis sûr qu'N'Golo Kanté au fond de lui d'avoir travaillé avec quelqu'un comme Ranieri, c'est du pain béni pour ces joueurs de football.
Justement, c'est là qu'on a découvert un petit peu tous ces talents africains. Certains ont choisi la nationalité française, d'autres ont choisi les nations africaines, notamment le gardien de Chelsea, hein, en l'occurrence Mendy, qui fait une saison époustouflante avec son club. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on présente le Sénégal comme l'un des grands favoris, parce qu'aujourd'hui, c'est l'équipe la plus complète au niveau de ces lignes, hein, je parle. Mais avant cela, on va quand même revenir, mon cher Sofiane, parce que là, ça mérite un carton rouge. Et ce carton rouge, on va l'adresser à Roger Millard.
Fou de sport.
Donc, ça va être ça.
Le carton rouge de la semaine.
Alors, c'est une interview que Roger Millard a donnée à la télévision. C'est une interview qui a fait beaucoup de bruit et tous les organes l'ont reprise en disant, passez-moi l'expression parce que tout le monde a repris la même phrase, les Maghrébins viennent en Afrique pour foutre le bordel.
Ouais.
Est-ce que c'est parce que l'Égypte et le Maroc étaient favorables à un report de cette CAN, ou bien certains voulaient carrément l'annuler. Le Maroc qui arrive avec toute sa délégation, avec leurs propres cuisiniers, il paraît même les matelas, les ouvriers, etc. Ils ne voulaient pas du personnel local. Donc ça a créé presque un incident diplomatique. Bon, on est là pour jouer au foot. On est en période de Covid. Après, chacun prend les dispositions qu'il lui a envie de prendre. Mais est-ce que ces déclarations de Roger Millard sont bien placées au moment où son pays a attendu depuis 1972, c'est-à-dire 50 ans pour organiser une CAN, 50 ans pour l'organiser et sortir ce genre de phrase? Moi, je trouve que c'est mal placé, ou alors c'est un problème de sénilité. Hein. Voilà.
C'est pas mal. C'est pas faux. Mais pour être précis, il donne cette interview à TV5 Monde.
Ouais.
Et l'interview, la vidéo, vous pouvez la trouver sur le site de SoFoot. Hein, j'ai regardé tout à l'heure. Si tu me permets de réagir, bah déjà, c'est des propos qui sont maladroits pour être gentil. Mais si c'est un Maghrébin qui dit ça sur les pays d'Afrique noire, je pense que ça fait scandale, à juste titre d'ailleurs. À juste titre. Mmh. Et le problème, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est que pour le coup, s'il y a bien un pays qui a soutenu la CAN au Cameroun, c'est l'Algérie. Il me semble que c'est un pays maghrébin, il me semble. Et il me semble aussi que...
Mais il se prononce pas quand même sur l'Algérie.
Bah si, parce qu'il dit les pays maghrébins.
Ouais, mais quand il dit les pays, après, dans la communication... Après, que dans la communication de Roger, il est mis là...
Il a cité normalement l'Égypte et le Maroc. Après, il a dit et les autres.
Après, quand il précise l'Égypte et le Maroc, maintenant, il faut qu'il comprenne. Quand tu vois un mec aujourd'hui qui est président de la Fédération du Cameroun, qui est Eto'o, et quand tu vois l'Europe, ce qu'ils ont fait par rapport à la Coupe d'Afrique, essayer de l'annuler...
Oui.
Alors, il y a un moment donné, je pense qu'il faut sortir. Tu prends que la Coupe d'Afrique qui devait être organisée par le Maroc, Tu te rappelles, ils nous ont fait passer, genre, le problème, c'est Ebola. Ouais. Mais je pense que c'était plus politique qu'autre chose. Maintenant, je pense que dans la réaction de Roger, je pense que c'était plus le côté politique qui le dérangeait. Parce qu'à chaque fois, la preuve, quand tu dis que le Maroc et l'Égypte, ils étaient d'accord pour la décaler et l'annuler. Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, faut être fort. Au niveau de la CAF, faut être très costaud. Et tu prends quelqu'un comme Eto, qui est président de la Fédération du Cameroun, et je pense que il a tapé sur la table, et il a tapé au bon moment sur la table. Et tu prends la FIFA, ils ont vu qu'il fallait pas rigoler avec des joueurs comme Eto. Ça a été le petit mec comme Ayatou qui était acheté par la FIFA ou un truc. Là, par contre, les mecs, ils auraient cédé. Ils l'ont décalé, la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, quand tu prends... c'est vrai que les mots, ils sont un petit peu...
Maladroits.
Que Roger Milla, c'est plus du côté maladroit. Mais parce que ils sont malins, les médias, ils savent parler. C'est comme Majer et quand il communique et il s'énerve, tu sens que le mec il a pas les mots, il a pas les verbes. Après je vois mal, après nous on est là, on regarde, on est moi je suis consultant, un petit consultant chez Beurre FM, je peux pas me permettre aujourd'hui de dire après on connaît les raisons politiques qu'il y a à travers la CAF et à travers le football africain. Je pense que si Eto n'avait pas tapé sur la table, si Eto a récédé, c'est comme Arsène Wenger qui demande de faire une Coupe du Monde tous les deux ans. Tu sens que le mec, il est manipulé par la FIFA.
Ah, complètement. Ah non, mais
tu vois la différence entre un intellectuel et un mec comme Roger Milla. Roger Milla, dans la forme, il a pas eu les mots et la forme pour.
D'ailleurs, c'est le cas. Parce qu'on en discutait en off avec Mohan. C'est le cas de beaucoup de ces anciens internationaux africains. Parce qu'en Europe, de manière générale, on sait que le monde du football, c'est un peu cliché, mais c'est malheureusement parfois vrai, et pas très intellectuel. Donc c'est rare que tu vas voir un ancien grand joueur s'exprimer, bon, sauf les symboles, hein, je parle pas de Beckenbauer, ce genre de personnage là. Oui. Mais de manière générale, on sait faire la distinction entre le monde du football et le monde politique, et on sait très bien qu'un footeux ou un ancien footeux, on va pas lui demander. Mais nous, ce qui se passe, c'est qu'on a d'anciens internationaux qui veulent attirer la lumière sur eux. Et quelqu'un comme Roger Milla, par exemple, je me rappelle, il y a peut-être une année, qui avait clashé salement Samuel Eto'o, d'ailleurs.
Oui, oui.
pareil, une histoire d'ego. Hein,
oui, oui.
Voilà.
Toujours.
On a Madjer chez nous aussi, bon, qui. Voilà, je pense que. Voilà, mais c'est ce problème des internationaux, des anciens internationaux africains, qui, si tu veux, quand ils sont dans les instances, bon, comme tu as dit, n'ont pas le niveau intellectuel pour donner leur avis, et qui, tu sais, sont dans une certaine forme d'aigreur, je trouve.
Ouais, oui, puis après tu prends Roger, il doit avoir 70.
70.
Oui, oui, ouais, on va dire 70 ans. Ouais,
voilà, 60, il a 70 ans, tu prends, après il y a peut-être une frustration de l'histoire de l'Afrique, il a vécu des choses, il a entendu des choses, il était quand même dans des tables de discussion. Moi, quand je regarde la Coupe d'Afrique au Maroc, je pense que ça aurait été une ferveur de faire cette Coupe du Maroc. Tu vois, c'est on l'a fait en Tunisie, l'Algérie, pareil, n'est pas prêt à l'affaire. Jamel à aucun moment dire que voilà, on peut pas faire la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et là, tu sens vraiment le rapport africain maghrébin. Et tous ces médias là, ils essayent de diviser, parce que quelque part ça les arrange de diviser le Maghreb avec l'Afrique. Mais on devrait comprendre que c'est des mecs qui ont un micro et qu'on leur fait parler dans un micro, voilà. Et après ils sont maladroits
alors vous savez ce que nous allons faire? Parce que là, j'ai une petite page qui arrive derrière pour vous dire que nous allons décortiquer tous les coups bas que cette CAN a subi. Aujourd'hui, il y a eu ce premier match. Ça veut dire que ça y est, c'est parti pour jusqu'au février, jusqu'à la finale. Mais on va vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé depuis la désignation du Cameroun en 2014 jusqu'au coup bas, jusqu'au dernier. Et il y a encore deux semaines où on n'était même pas sûr que cette CAN allait avoir lieu. C'était flagrant. Il y avait des coups partout. Il y avait des, parce que derrière, il y a des intérêts personnels, des intérêts de siège dans les différentes instances. On sait ce que veut Infantino, mais l'Afrique a réagi à l'unisson. Et là, je pense que pour moi, c'est la première défaite d'Infantino face à l'Afrique.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Fou de Sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Entraîneur de fou, les entraîneurs.
Notre coach national. Grand plaisir d'être là tous les dimanches et de raconter l'actualité.
Pire, tu sais, c'est quoi? C'est que l'Afrique, aujourd'hui, ils ont vu qu'à travers le sport, surtout le football, tous les terrains.
Mais il n'y a pas le même niveau de développement comparé parce que je n'ai pas le même niveau de développement économique.
Tu me dis, t'as pas le même développement.
Retrouvez Fou de Sport tous les dimanches de 18h à 20h avec Mohamed Marouf sur Beurre FM. Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Allez, on retourne sur le plateau de Foot de Sport. Alors, c'est vrai que dans ce dossier de la CAN, il y a un premier gros sujet. On vous a parlé sur l'histoire de l'obtention de cette coupe par le Cameroun. Et surtout, nous allons revenir sur cette arnaque, on peut bien parler, de ce tirage au sort des matchs de barrage de Coupe du Monde en pleine CAN. C'est-à-dire que la veille des huitièmes de finale, eh bien, on va faire le tirage au sort. Alors, vous imaginez que deux équipes africaines, par exemple, qui vont se croiser, là, par exemple, pendant ces huitièmes ou les quarts de finale, vont se retrouver au mois de mars pour un aller-retour de barrage de Coupe du Monde. Aïe, aïe, aïe. Mais avant cela, mon cher Sofiane, on va commencer dans ce dossier, après le carton rouge sur les déclarations de Roger Milla. On ne va pas épiloguer longtemps. On va revenir notamment sur cette obtention de la CAN par le Cameroun. Il faut savoir que le Cameroun a été choisi en 2014. À l'époque, souvenons-nous, c'était la fin de l'ère Hayatou. Et il fallait donner plusieurs CAN à ce moment-là. Donc, quand on avait donné la CAN pour le Cameroun, alors je crois que c'était 2019 Cameroun, 2021 Côte d'Ivoire et 2023 Guinée. Et ça, c'était à l'époque de Hayatou, je le précise. Mmh. Pourquoi ? Parce que il y a eu un précédent lorsque cette CAN devait avoir lieu en Libye. Finalement, on avait tous pensé que le Maroc allait l'organiser. Elle s'est retrouvée, je crois, en Guinée équatoriale.
2017.
Ouais. Voilà. Donc, partant de là. Après, on avait dit que pour 2019, le Cameroun ne peut pas faire face. On avait encore pensé au Maroc jusqu'à la dernière seconde.
Et à l'Afrique du Sud, rappelle-toi.
Oui.
Qui était toujours là dans les papiers.
Tout à fait.
Dans les papiers.
Au cas où.
Ouais.
Finalement, le Maroc a dit non et l'Égypte a récupéré le bébé. C'est là que l'Algérie gagne cette fameuse CAN.
Ouais.
Voilà. Et on arrive à cette fameuse compétition pour le Cameroun. Sauf que le Cameroun, au moment de l'organiser, ben la. Normalement, celle de 2019, elle était censée être organisée d'abord au Cameroun. Oui, 2019, c'était au Cameroun normalement. Sauf que le Cameroun n'était pas prêt. Parce qu'il y a eu l'arrivée de Ahmed Ahmed à la place de Hayatou. Et lui, il fait passer la CAN à 24 nations. 24 nations, le Cameroun n'a pas les infrastructures pour accueillir autant de pays, c'est-à-dire avoir les stades, les hôtels, les routes, etc. Et tout. Eh bien, c'est là que. Finalement, il y a eu cette décision de la confier à l'Égypte, qui a déjà tout ce qu'il faut pour faire une CAN, même à 32 s'il le faut, il n'y a pas de souci en Égypte. Donc, le Cameroun a obtenu un sursis, et malgré ce sursis, ensuite, et je crois, derrière Sofiane, rappelle-moi, la FIFA avait décidé de créer une Coupe du Monde des clubs qui était dans le même calendrier que la CAN. Donc, on a dit à la CAN de se décaler encore une nouvelle fois. Après ça, oh boum, le Baouch est arrivé. Le Baouch, c'est le Covid. Hein. Allez, on décale tout. Et malgré ça, à la fin, on a dit, oui, il faut un protocole sanitaire. Les joueurs africains, les clubs ne vont pas les libérer comme ça parce que nous avons besoin de nos joueurs. Et puis, nous n'avons pas de garantie sur le protocole sanitaire africain. Et boum, et voilà que l'association des clubs européens, c'est-à-dire
le CA,
ouais. Voilà, le CA, plus la FIFA qui pousse pour annuler la CAN. Là, non, là c'est arrivé comme on dit chez nous, au NIF, quoi, même chez les Camerounais.
Bien sûr.
Ça ne tenait plus chez Paul Biya, le président du pays. C'est monté tellement haut qu'après, il y a eu le patron de la CAF, M. Motsepe, qui est venu, qui a dit la CAN aura lieu au Cameroun. Et c'est là qu'il a mis au défi Infantino. Il lui a dit non, non, non. Et malgré ça, ils ont poussé. La FIFA a donné une directive pour que les joueurs ne soient pas libérés deux semaines, comme le veut le protocole, pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations. Mais uniquement le 3 janvier. Il y a des joueurs comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, qui ont joué le 3. Riyad a joué le 2, Mahrez. Donc, on a retiré une semaine de préparation aux joueurs. Et vas-y, prends un avion pour rejoindre ta sélection. Et tu rejoins le Cameroun pour faire la compète. Jusqu'au bout, il y a eu des bâtons dans les roues. Fort heureusement que ça a tenu. On a eu notre premier match.
Ça a tenu parce qu'il y a des gens comme Eto'o qui sont intervenus. Après, quand t'as un mec comme Eto'o qui intervient, c'est pas Hayatou ou c'est pas le président de la CAF. Après, Mohamed, il y a un moment donné, il y a des trucs où à un moment donné, je pense derrière ce qui se cache un peu le problème de l'Afrique et le problème de la gestion de la FIFA, tu sens que c'est des postes clés politiques. Je pense que la politique a joué un rôle là-dedans. On l'a bien vu que politiquement, quand ils ont décidé d'abattre Blatter, ils l'ont abattu, ils ont abattu Hayatou, ils ont viré tout le monde. Et c'est qui l'a viré tout le monde? C'est quand même les politiques extérieures qui gèrent un peu le monde, tout en sachant que ces gens-là, à un moment donné, ils sont gouvernés parce que. Alfantino, à un moment donné, cette pression, il l'a de qui? Il l'a de l'Europe. Mmh. Il a d'Amazon, il a de ces trucs. Parce qu'il y a tellement d'argent qui est en jeu sur le football anglais, sur le football français. Et il y a pas mal de joueurs africains, surtout des joueurs comme Salah et Mané. C'est quand même des joueurs en Angleterre. C'est un peu les figures du football anglais. Et quand tu regardes ça, eux, ils se disent, on n'a rien à foutre de la Coupe d'Afrique, nous, ce qu'on regarde.
C'est exactement ça.
On a rien à foutre de leur Coupe d'Afrique, tout ça. Alors écoute-moi, mon point de vue. S'ils en ont rien à foutre de la Coupe d'Afrique, ben je suis content qu'un mec comme Eto'o, il a ouvert sa bouche et qu'il a dit. Et Eto'o, on sait très bien que qu'il a un franc parler, qu'il est un peu direct. Et quand tu me parlais de Roger Milla au téléphone, et peut-être ces mecs-là, ils en ont marre de subir cette pression politique au niveau de l'Afrique. Et tu sais très bien que. La CAF, elle est où? Elle est en Égypte. Mmh. Et pourquoi ils l'ont mis en Égypte? Parce que tu sais très bien que politiquement, l'Égypte, ils étaient plus sociables, ils étaient plus arrangeants que de la mettre ou en Algérie ou de la mettre au Cameroun ou de la mettre en Côte d'Ivoire ou de la mettre, tu vois.
Et il y avait deux pays à l'époque qui pouvaient avoir ce siège. Hein. C'était l'Égypte et l'Éthiopie, hein, c'est tout.
Voilà. Et encore, tu veux que je te dise, moi personnellement aujourd'hui, je changerais la CAF, je la mettrais en Afrique du Sud.
Ouais. Oui, je suis d'accord.
En Afrique du Sud, je trouve que l'Afrique du Sud, elle correspond plus à... Bon, après, dans le système européen et le système mondial, tu prends l'Afrique du Sud, c'est quand même un pays qui est très écouté. Quand tu regardes l'évolution de l'Afrique du Sud aujourd'hui, t'as les Anglais qui sont là-bas, t'as des pays... Après, faut pas se leurrer. À un moment donné, les Coupes d'Afrique où tu regardes l'arrangement qu'il y a eu entre Hayatou et Blatter au niveau des joueurs sélectionnables qu'ils ont joué en équipe de France, qu'ils ont joué dans tous les clubs européens. Tu vas pas me dire que ça a été bien pour l'Afrique. Non, je trouve que ça a pas été bien. Tu peux des gens qui font les championnats d'Europe, équipe de France ou qui jouent international. Ah là, les trois matchs international. J'estime que je trouve ça dégueulasse de la part des joueurs africains que eux choisissent leur truc. Et puis eux, ils ont choisi l'équipe de France. Et puis derrière, où ils ont choisi l'équipe d'Espagne. Et derrière, ils ont le droit. Alors ça déjà, je trouve que on respecte pas l'Afrique quand on met des lois comme ça. Et ça, qui c'est qui l'a créé, c'est Blatter et Rabiot. Voilà. Là, c'est pas Roger Milla, c'est pas un tel ou un tel ou un tel. Moi, personnellement, je respecte Fekir, il choisit l'équipe de France. Il choisit l'équipe de France. Mais quand tu vois trois aujourd'hui, t'as trois sélections.
Oui.
Trois sélections.
C'est ça.
Ouais. Tu peux. Et ben voilà le déboire de la.
C'est l'histoire de Mounir Haddadi pour le Maroc. On est d'accord.
Regarde aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis ben. Pourquoi ils nous respectent pas? Parce que, à un moment donné, tu leur dis, cassez-vous avec vos lois, s'ils veulent jouer en équipe de France, je respecte. S'ils veulent jouer en équipe d'Espagne, je respecte.
Oui, normal.
On a le problème avec le petit, là, qui est en Espagne, qui est en Espagne et qui hésite entre l'Espagne et le Maroc. On a eu le problème, avec Nabil Fekir. Il y a Nabil Fekir, où, à un moment donné, tout le peuple lui était tombé dessus. Mais ça, c'est de la faute de qui? Ça, c'est de la faute aux instances du football mondial de laisser faire des droits à des joueurs africains qui jouent dans leur pays où ils ont grandi, où ils ont... tu fais un choix, tu veux aller dans ton pays, tu veux aller jouer pour ton pays, c'est toi ton honneur, tu veux jouer pour l'équipe de France, je respecte totalement. On a un exemple de joueurs algériens qui s'appelle Zinedine Zidane, qui a fait une carrière en équipe de France, qui a été le qui a été exceptionnel, c'est pas pour autant qu'il aime pas l'Algérie. Et ça, c'est des choix qu'il faut respecter. Et je pense que la FIFA, à un moment donné, au lieu d'essayer de nous diviser, bah eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le bordel.
Oui, mais Boula, c'est fait exprès. Regarde, il suffit. D'ailleurs, on en parle ici souvent avec coach Sanjak. Il me dit combien compte l'Afrique. Je dis écoute, l'Afrique c'est 53 voire 54 fédérations. Et on a combien de représentants en Coupe du Monde?
5.
M'a dit, tu vois le gros scandale. L'Amérique du Sud, il y a combien de pays? Ils sont 11 pays maximum. Et combien de représentants de Coupe du Monde? 5.
Voire 6
des fois. Ouais. Alors, donc.
Parce qu'on n'a pas des vrais ambassadeurs
intellectuels. Mais oui, ben voilà. Pas des vrais ambassadeurs
intellectuels. Oui. Je parle d'intellectuels. Quand tu prends Nasser qui dit ça, s'il y a un mec qui connaît bien le sujet de l'Afrique, c'est bien Nasser Sanjak quand même. Ouais. Il a même vécu ça avec le camp. Tu te rappelles avec un joueur algérien pareil, au moment donné, il hésitait, il voulait venir, il voulait pas venir. Il a eu ce problème-là. Et voilà, tu te retrouves dans des situations comme ça. Moi, je vois mal. Tu prends Delors quand il fait le choix.
Oui.
Jamel, il lui dit, bah, écoute, tu vas pas mettre ta petite robe de mariée, tu vas venir quand tu veux.
C'est exactement ce que
ouais, mais après.
C'est Jamel.
Après, Jamel, il a le respect de dire, tiens, voilà, le mec, il est né algérien, qu'il est né sur Neptune, et ben, il va aller le chercher. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises. Après, il faut respecter les choix. Moi, personnellement, je respecte les joueurs qui choisissent une sélection.
Oui, non, mais de toute façon, il ne faut jamais, parce que souvent, ce qui fait mal à ces gamins, ce sont les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants issus de l'immigration, deuxième, troisième, voire quatrième génération, beaucoup d'Africains sont en France. Et aujourd'hui, on va dire que tous ces clubs, tous ces centres de formation, qu'est-ce qu'ils font pour là? Ils alimentent ces nations africaines. Car aujourd'hui, si on prend les équipes africaines uniquement avec leurs joueurs locaux, eh ben, le niveau, il est trop faible aujourd'hui. Parce qu'on a toujours dit que la quintessence de l'Afrique a été prise comme ça, arrachée de l'Afrique pour la ramener ici en Europe. On leur a laissé les niveaux B, les niveaux, même pas les niveaux B, les niveaux C, les niveaux D qu'on leur a laissé là-bas en Afrique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après ces garçons, regarde aujourd'hui, moi je le vois à travers, par exemple, la sélection malienne, ce sont des joueurs qui sont issus de l'immigration. Le Mali a une très très belle équipe, le Sénégal pareil. L'Algérie commence à avoir de plus en plus de joueurs qui ont grandi au bled, qui sont venus en France, enfin, et qui ont travaillé, hein, il faut le reconnaître. D'autres sont issus de l'immigration, donc il y a un mélange. Le Maroc avec Vaïd, c'est beaucoup de joueurs formés en Europe, principalement Espagne, Pays-Bas, Belgique, là où résident les plus fortes communautés marocaines. Vaïd, c'est quelqu'un aussi qui va chercher dans les petits clubs. Il a trouvé ses buteurs à Courtrai, en Hongrie, avec le petit Mami, je sais pas, qui est un super joueur, qui joue en Hongrie. Ça veut dire que derrière, pour faire une sélection boulot, je pense que, puisque tu es aussi manager, donc tu connais ce boulot, c'est-à-dire que il y a une équipe, il y a des types qui prospectent à travers l'Europe, ils ont incarné, ils ont des noms, et ils vont suivre le gamin, c'est ça.
Oui. En tout cas, quand je regarde Jamel sur le travail qu'il a fait avec l'équipe nationale, Ben Madi, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois la qualité des locaux, et on avait un gros problème là-dessus entre le local et le local.
Ouais, ouais.
Et quand tu regardes aujourd'hui le local, c'est quand même un joueur qui a un énorme potentiel. Quand tu vois un mec comme Belhamri, là. Moi, je trouve qu'il a fait une super coupe arabe. Les trois matchs qu'il a fait, il a été exceptionnel. Quand tu vas regarder le petit Chetti, le petit Sayous,
oui.
Et tu sens que c'est une qualité qui a vraiment jamais été exploitée. Quand tu vois Belali, on l'a mis tricard, il a fait ses bêtises, mais ça, c'est des bêtises de gestion et c'est des bêtises que des gamins qui ont été livrés à eux-mêmes. Mais regarde le potentiel de ce joueur. Si Jamel Ben Madi aujourd'hui il est pas là, on les voit pas ces joueurs. Tu prends Belhamri, c'est quand même un joueur que Jamel Sanjak avait sur ses ordres quand il jouait à GSK.
Oui, oui.
Il en disait énormément de bien.
Ouais,
et quand tu regardes aujourd'hui la Coupe d'Afrique qui te fait Jamel Belhamri, tu sens que c'est le vrai défenseur.
Ouais.
Tu sens vraiment un assise. Et c'est pour ça que Jamel, il l'a dans le groupe. Et après, Après, ce qu'il y a un truc qui est bien, c'est que vu le résultat de l'Algérie, aujourd'hui les joueurs ils sont plus réceptifs à venir. Mais il y en a encore qui sont dans le doute de choisir l'équipe de France. Et là, le problème, c'est que la FIFA qui nous laisse tranquilles, qui laisse un peu les Africains tranquilles dans la gestion, qu'ils arrêtent de nous inventer des lois. Oui, c'est le A qui a fait plus de 3 mois. Ça, c'est
Ça
déjà, c'est honteux. Je te dis franchement, c'est honteux. Les espoirs. Encore. Et il y a un mec, et il y a un exemple, c'est Diallo, celui qui était au PSG, là.
Abdou, ouais.
Ouais, voilà, toujours, d'ailleurs. Qui est toujours au PSG. Lui, il a eu l'intelligence de dire, il a annulé son tournoi aux espoirs pour faire un choix.
Mali.
Non, le Sénégal.
Sénégal ou Mali?
Non, le Sénégal avec Aliou.
Ah, d'accord, ok. D'accord. Aliou Cissé.
Ouais, je sais plus, c'est Diallo, je sais plus qui comme nom.
Tu parles d'Abdou Diallo, le défenseur.
Ouais, le défenseur. Et aujourd'hui, ce gamin a fait le choix entre le tournoi espoir et son équipe nationale. C'est toi, mais toi, tu mérites, le, hein?
Sénégal, ouais.
C'est, hein?
Sénégal, ouais,
Sénégal. Et tu prends la discussion que Alou a eu avec ce joueur, lui a dit, écoute, si tu viens en équipe nationale du Sénégal, tu seras un patron. Voilà, c'est ton pays, voilà. Tu vas jouer pour les valeurs de ton pays. Mmh. Voilà, je respecte Paris, je respecte l'équipe de France, je respecte ça, Alou. Et Alou, ce qui, où il a fait fort, c'est qu'il a, voilà, il a fait passer un message à ce gamin, comme Jamel fait passer des messages à certains joueurs, comme Vaïd fait passer des, après, à un moment donné, mais regarde, quand tu regardes les deux mecs qui arrivent à faire ça. C'est Ben Madi et Aloudia,
Alucissé.
Et c'est des mecs qui ont été formés en France que
c'est vrai en plus, ouais, les deux.
C'est
ouais.
Des, voilà, c'est des gamins. Tu prends un mec comme Vaïd, où il est maladroit, c'est avec Ziyech. Ouais. Essaye d'avoir un petit peu de psychologie. C'est quand même, il fait partie quand même des meilleurs joueurs européens quand même. C'était un des meilleurs, des cadres de l'Ajax. T'as un gamin comme ça, tu le prends pas. Mais moi, j'ai un respect pour un petit peu tous les jeunes au niveau de la France. Il y a un truc où tu peux pas cracher dedans. Tu regardes Alou, formé en France, il a travaillé à la Française, né à Champigny. Tu prends Jamel Belmadi, né en France, il a fait toutes ses cultures footballistiques et toute sa théorie, il a fait en France. Et ben tu regardes ce qu'il a eu, et ben il retransmet au Sénégal ou à l'Algérie. Ouais. Et après c'est là où que à un moment donné la richesse, elle doit être intéressante des cultures des pays. C'est ça qui, c'est ça qui est bien.
Alors, dans un instant, ce sera la dernière coupure, elle est très courte d'ailleurs, on va parler, Sofiane, de l'agenda, parce que, bon, après ce premier match, ce soir, toujours dans le même groupe, il y aura un second match, hein, vers 20h, c'est
Éthiopie-Cap-Vert.
Éthiopie-Cap-Vert. On a fait vraiment un groupe à la mesure du Cameroun pour passer facilement au second tour. Donc, on va faire tout à l'heure le point, enfin, du calendrier de toutes les rencontres qui auront lieu durant la semaine, puisque je vous rappelle que vous retrouvez tous les jours la Minute Cannes dans la matinale, mais également Time Sport tous les jours avec Bilal et toute son équipe. Et donc nous, dimanche, on fait la synthèse. On arrivera déjà, si tout se passe bien, dimanche prochain, au moins à la deuxième journée, c'est ça. On sera dans certains groupes à la deuxième journée. Et déjà, on pourra voir ce qu'on appelle les profils des équipes qui sont qualifiées ou qui sont susceptibles de finir première ou deuxième de leur groupe pour aborder les huitièmes de finale.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
Dernière partie de cette émission, mon cher Sofiane, on va lancer l'agenda.
Foot de sport, l'agenda.
Non, Mohamed Dugras, c'est un journaliste, il avait fondé un site internet, etc. et tout. Donc c'est juste pour rappeler qu'il a fait un superbe bouquin.
Il faut bien préciser, parce qu'il y a deux Mohamed Dugras. T'as un qui est un agent, qui est un drôle de farfelu.
Ouais. Et il n'est pas agent du tout. C'est un passionné de foot, et surtout c'est un passionné du football africain. Je tiens à le préciser quand même, hein, parce que c'est vraiment... moi, j'aime bien Momo parce que il est franc, il est direct. Et c'est quelqu'un qui a voyagé et qui a beaucoup voyagé. Et il a cette passion pour l'Afrique, un peu comme nous, là, ici, à Beurre FM. Et je lui tire mon chapeau par rapport donc à cette situation. Vas-y, Sofiane, je t'écoute pour l'agenda maintenant.
Alors, Mohamed, donc on l'a dit tout à l'heure, donc le Cameroun s'est imposé contre le Burkina. Et l'Éthiopie reçoit le Cap-Vert ce soir. Donc, ça, c'est le groupe A. Donc, comme l'a dit Mohamed. À la mesure du Cameroun, qui normalement devrait s'en tirer. Et les choses sérieuses, elles commencent dès demain, puisque le Sénégal recevra jouera contre le Zimbabwe à 14h. Tandis que la Guinée, dans le même groupe, on jouera contre le Malawi. Et c'est surtout le soir, enfin, c'est surtout à 17h, pardon. Donc, il y aura deux matchs, en fait, à 17h. Avec un match Maroc-Ghana, un choc, quand même. Même si le Ghana de les Black Stars, pardon.
Du Ghana
sont.
Alors, voilà, les Black Stars.
Voilà, les Black Stars du Ghana sont. Bon, on les a vus en amical contre l'Algérie, c'est plus la grande équipe du Ghana.
Non.
Mais ça reste un grand nom du football africain qui va jouer contre le Maroc aussi, donc une équipe un peu outsider dans cette CAN, on sait pas vraiment.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Vahid a beaucoup supervisé le match Algérie-Ghana, puisque le Maroc avait rencontré le Burkina en amical avec un superbe coup franc de Achraf Hakimi.
Mais il manquait deux joueurs quand même, il manquait deux, trois joueurs, il manquait les deux frères Ayou. Hein. Ouais. Alors ici, il supervise le match et tout en sachant que après, il y avait une grosse prestation de l'équipe d'Algérie ou qu'ils ont fait un sans faute aussi.
J'ai beaucoup aimé Adamounas.
Oui. Adamounas, voilà. Et en plus, je pense que l'équipe d'Algérie, elle a quand même pas mal de joueurs qui vont avoir cette fraîcheur physique puisque ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, donc ils vont arriver relativement frais à cette CAN.
C'est clair. Du coup, Mohand, le dernier match du groupe, donc du Maroc, groupe C, ce sera Comores-Gabon demain à 20h. Donc un match entre Comores qui, je crois, qui est dans sa première ou deuxième participation.
Oui. C'est un événement pour le Comores. Hein.
Voilà, et le Gabon qui est un peu le.
Alors le Gabon, c'est l'histoire du Gabon. Alors là, tu sais que les joueurs professionnels ont menacé de ne pas se rendre au Cameroun parce qu'ils n'ont pas touché leur prime. Et du coup, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le ministre a dit s'il faut envoyer les locaux, je vais envoyer les locaux. Sauf que tu ne joues pas comme ça. Parce que la Confédération, tu lui envoies une liste. Et la liste, elle est établie pour une compétition. Tu ne peux pas, en 48 heures, changer ta liste comme ça.
Voilà, mais après, je trouve ça pas. Après, les joueurs, à un moment donné, ils savent très bien que les budgets, ils ont. Ils savent très bien qu'ils ont. Ils reçoivent de l'argent. Et ce qui est dommage, encore, c'est pas les joueurs. Moi, je trouve ça. L'image du président gabonais. Ou l'image qu'il y avait eu à un moment donné le Cameroun, je pense que tu vois, c'est là qu'il y a un problème avec les représentants de la CAF quand tu vois des situations comme ça, c'est que tu peux pas à un moment donné jouer avec l'argent parce que c'est un peu l'argent des joueurs et c'est parce que cet argent il les touche bien au niveau de la CAF, de la FIFA, il touche bien de l'argent et la manière qu'elle est dispatchée, je pense que la FIFA faudrait qu'il fasse au niveau des lois comment cet argent elle est dispatché parce que ça bénéficie dans le football africain et en plus c'est de respecter un petit peu les joueurs
oui, normal.
Parce que c'est eux les acteurs, c'est
bien
eux qui jouent
bien sûr.
Et j'estime que c'est leur dû, c'est leur dû. Voilà, et puis t'as un capitaine qui représente, mais le capitaine des fois il peut pas à un moment donné être derrière le président qui a décidé de payer personne. Pour moi c'est plus du racket que de la mise à l'amende, et puis faut qu'à un moment donné faut que tous ces représentants d'Afrique ou des présidents faut qu'ils arrêtent un peu leur bêtise de pas respecter les engagements vis-à-vis des joueurs. Là je parle pour les joueurs, c'est faut les protéger.
Oui non mais on est d'accord, les joueurs faut les protéger.
C'est clair.
Ouais, alors le mardi.
Alors mardi, entrée en lice de l'Algérie.
Ouais.
Alors un match qui est programmé à 14h.
Oh là là.
À Sierra Leone, donc l'Algérie va faire je crois que c'est un des avec le Sénégal, 14h donc mardi.
D'accord.
Contre la Sierra Leone.
Oui.
Donc adversaire normalement à la portée des Fennecs, mais bon, match d'entrée.
Match d'entrée, d'ouverture, etc. Et tout.
L'horaire me fait.
14h, oui, voilà. Je suis d'accord. Oui.
C'est un peu compliqué.
L'heure du championnat algérien.
Ouais. 14h. Et alors, du coup, et le gros choc, c'est donc le même jour, mardi, à 17h, où on va se retrouver avec un Nigeria-Égypte.
Ah oui, quand même. Ouais.
Match d'entrée dans ce groupe. Tandis que. Et donc, toujours mardi.
Décidément.
Voilà, donc. Un autre match à 14h.
Donc, en fait, il y aura deux groupes qui vont jouer mardi alors.
En fait, tu as le groupe de l'Algérie, il n'y aura qu'un seul match qui va jouer.
Ouais.
C'est le match Algérie-Sierra Leone.
Ouais, d'accord.
Et le groupe, en fait, l'autre groupe, c'est le groupe de l'Égypte.
Oui.
Tu as deux matchs. Donc Nigeria-Égypte et Soudan-Guinée-Bissau.
D'accord. Trois matchs en tout, c'est ça.
C'est ça. En fait, c'est un peu, voilà, c'est pas fait par groupe. Les deux autres équipes qui sont dans le groupe de l'Algérie, c'est-à-dire la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, elles joueront mercredi 20h.
D'accord.
Et avant ça, on aura un Tunisie-Mali.
Ça c'est un super match intéressant.
Intéressant, un vrai match intéressant, c'est vrai.
Ouais.
Deux équipes.
Tout à fait.
Le Mali qui monte et la Tunisie qui est la force
tranquille de l'Afrique. Voilà. Ça fait pas de bruit, mais ils sont là les Tunisiens.
C'est ça, exactement.
Toujours.
Et un match entre deux entre guillemets petites sélections, si ça n'existe pas, entre la Mauritanie et la Gambie.
D'accord.
Donc mercredi 17h.
Ouais. Donc ça, c'est, ça veut dire, est-ce qu'on a fini avec la première journée de tous les groupes?
C'est ça, on a fini avec la première journée de tous les groupes.
Et ça veut dire que la deuxième journée va démarrer le jeudi.
Exactement, jeudi 13 janvier, avec Cameroun et Éthiopie.
D'accord.
Donc sur ce groupe A. Et Cap-Vert Burkina Faso, donc les Burkinabés qui ont perdu et qui voilà, devront gagner pour espérer se qualifier. Sachant que dans ces groupes-là, dans cette formule, le meilleur troisième peut être repêché en cas de si y a les quatre meilleurs troisièmes sont repêchés.
Oui. Et vendredi?
Vendredi, donc deuxième journée, Sénégal-Guinée.
Ah, ça c'est intéressant.
Match de voisins.
Ah ouais, tout à fait. Voilà.
Et Malawi-Zimbabwe.
D'accord. De pays anglophones, hein, on va le dire. Hein.
C'est ça. Alors je vois que là, vendredi, apparemment, on a quatre matchs.
Quatre matchs vendredi.
Quatre matchs vendredi, donc ces deux matchs-là, et auxquels il faudra ajouter Maroc-Comores.
D'accord.
Et Gabon-Ghana.
Très bien.
Donc, en fonction des résultats, on peut avoir déjà des coups près qui tombent. Ça.
Et samedi, normalement, ça devrait être... est-ce que c'est pas samedi ou dimanche la deuxième journée, par exemple, pour le groupe de l'Algérie?
C'est dimanche.
C'est dimanche.
Avec les deux matchs qui se joueront le même jour. Pareil, quatre matchs ce jour-là, d'ailleurs. Avec l'Algérie qui jouera contre la Guinée équatoriale.
Tout à fait.
Donc voilà, à 20h. Et la Côte d'Ivoire qui jouera la Sierra Leone, donc l'Algérie aura affronté en première journée. Et dans les gros autres groupes, on aura Tunisie, Mauritanie, Gambie, Mali, dans les groupes qui seront le même jour que les matchs de l'Algérie.
D'accord.
Donc ça sera pour la fin de la journée 2, donc dimanche prochain. Donc nous, on sera ici.
Oui, oui.
Voilà. On aura sans doute déjà des qualifiés en fonction.
Voilà. Tu veux dire que sur le match de 20h, allez, on finit l'émission, on court au resto pour regarder le match.
S'il y a de la place, parce que.
Oui, s'il y a de la place.
Cet impératif.
On connaît les supporters des aides.
C'est ça, exactement.
On sait comment ils sont.
C'est ça.
Bon. Après,
à partir de lundi, ce sera la troisième journée. Sachant qu'avec cette formule de meilleur troisième, en principe, avec 6 points, t'es déjà qualifié. Après, l'ordre qui va être important.
Tout à fait.
On peut pas dire déjà qui à l'avance affrontera qui.
Allez, on y va.
Réagissez au 01 53 48 3000. Retrouvez toute l'équipe sur Facebook et Twitter.
Bonsoir et bienvenue sur Beurre FM.
Bonsoir.
Votre prénom, s'il vous plaît.
Je suis à l'antenne, mais Karim.
Karim, ah oui, Karim de Lyon, oui.
Merci beaucoup, voilà. C'est gentil. Alors, je remercie encore une fois Beurre FM et je les félicite pour leur, on va dire, leur naturel. J'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de radio à côté, mais Beurre FM, on est vraiment proches et on a l'impression qu'on est sur le terrain.
Ben, écoute, on essaie d'être au plus près de la vérité footballistique, hein, surtout au niveau africain. Hein.
Moi, je dis voilà, ça sera dur de vous copier. Gardez votre naturel, super. Alors moi, je voudrais répondre à une personne qui a téléphoné la dernière fois. J'étais en fin d'émission, c'est quelqu'un qui a parlé de Belloumi.
Oui.
Puis il y a vraiment, franchement, je suis désolé, j'aime pas parler comme ça, mais je dis c'est honteux, il a parlé. J'ai envie de lui dire.
Oui.
Quand tu dis que Belloumi s'est pas imposé à Andoum, j'ai envie de te dire, à Andoum, il y avait quoi? Des joueurs de volley, de ping-pong, de je sais pas moi, de hockey sur gazon. Quand t'as un joueur comme ça qui atterrit dans une équipe, on va dire, niveau tellement faible, t'as beau mettre Lewandowski, il pourra pas, pourra rien faire. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Vous savez que Lyon, quand à un moment donné, ils ont été recrutés dans le club, il y avait Haaland. Vous savez Haaland?
Oui.
Ils étaient allés dans ce club pour superviser un joueur. Et Haaland, il était là, ils l'ont même pas remarqué. Même pas. Le type, il a dit, on a raté un type. Après, il a été pris par les Autrichiens, il a été revendu 7 millions d'euros, je sais pas quoi. C'est tout ça pour lui dire, Haaland lui-même, ils l'ont pas vu. Moi, quand tu me dis Andoum, mais tu me fais rire. Tu peux pas jouer avec des basketteurs et des volleyeurs. Après, quand tu me dis que l'équipe d'Algérie, avant, n'était pas aussi forte, j'ai envie de te dire, mais tu marches sur la tête. L'équipe d'Algérie, moi, j'ai vu Belloumi, le ballon, c'est pas tout du col au pied, il le suit. Le ballon, je suis Belloumi. Belloumi, il pousse même pas le ballon, il le suit. J'ai regardé ses vidéos. Il y a un moment donné, il fait une talonnade comme ça, il le voit par-dessus. Il avait toutes les feintes. Honnêtement, la vitesse des pieds, la beauté, c'est de la chorégraphie. C'est un joueur exceptionnel. Quand tu le vois jouer, je dis, mais là, c'est de l'intelligence qui passe à travers. Je dis, mais quand tu dis que l'équipe d'Algérie, avant, ils jouaient contre des Africains, ils n'avaient pas de basket et pas de maillot. J'ai envie de dire, d'accord, on est d'accord. Et les Allemands, ils n'avaient pas de basket et pas de maillot. Et les Brésiliens, ils n'avaient pas. Ils ont pris, non seulement il y avait le score, mais tu regardes le match, ils faisaient jouer égal, mais mieux. Comment cette équipe d'Algérie que tu dis qui jouait contre des Africains, c'était pas super, ça a été Belloumi, il a été médiatisé. Je fais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Les Allemands, j'ai encore regardé la vidéo tout à l'heure, Belloumi, il est parti, ils l'ont même pas vu arriver, il était devant la cage pour mettre le but. Il avait l'intelligence, la bonté et tout. Mais quand tu dis Belloumi, mais Belloumi, techniquement, était aussi fort que Mahrez. Et en vitesse pure, je ne sais pas si Mahrez il pouvait faire le poids et tout. Et c'est un gars, il est individuellement très fort et collectivement, il fallait voir ça. Comment tu peux critiquer un joueur comme ça? C'est que tu ne connais pas grand-chose au football. Je vais terminer par un truc qui fait rire, c'est toi. Je lui demande, la prochaine fois, commente pas le football, c'est ce que tu fais. Tu te mets devant ta fenêtre, tu donnes à manger aux pigeons et aux moineaux, et surtout, donne-leur bien à manger du pain, pas des cailloux, parce que tu es capable de renvoyer des cailloux, toi.
Voilà, merci beaucoup, Karim. Ouais.
Il y aura un droit de réponse.
Hein. Merci, là, je pense que oui.
je pense qu'il va répondre. Hein.
Oui, c'est
reste
sûr.
À l'écoute, reste à l'écoute.
L'Allemagne, 5 fois champion du monde, qui écrasait tout le monde sur son passage. Tu vois Belloumi, les cassettes que tu as regardées avec ton ami, c'était des cassettes VHS. On ne sait pas si c'était des poteaux ou des joueurs. De quoi tu me parles? Mais sois lucide un peu. T'sais, on est là, on met des vidéos et on voit ce joueur, il vole quand il conduit le ballon. Et donc, je dis, mais c'est pas croyable. Il y a 40 millions, plus les arbres, plus les cailloux en Algérie qui disent qu'il est bon. Et toi, t'arrives, tu dis, non, mais il a été fabriqué. Par contre, toi, tu sais sûrement fabriquer, toi.
Merci beaucoup, Karim, pour cette intervention. C'est vrai que, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Je ne peux pas prendre d'autres appels, c'est terrible, parce que les appels sont arrivés un petit peu en retard. En tous les cas, il y aura des droits de réponse semaine prochaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Karim.
Je crois qu'il est parti.
Voilà, oui, je pense. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Malgré tout, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part heureux parce que cette Coupe d'Afrique a enfin démarré. Je pense que la plus belle victoire aujourd'hui pour l'Afrique, c'est le démarrage de cette compétition. Avec tout ce qu'on lui a mis comme bâton dans les roues, là, jusqu'à 10 jours, je me suis dit que cette compétition n'aura pas lieu. Il y avait de telles pressions sur les joueurs notamment. Moi, je pense aux joueurs africains. Heureusement que les grands joueurs ont réagi. Non, même si la FIFA a pondu une nouvelle loi pour retenir les joueurs encore une semaine jusqu'au 3 janvier, eh ben, les stars sont partis quand même.
C'est marrant, ils font des lois.
Pour
prendre des joueurs en sélection, oui. Que l'Afrique prenne des joueurs en sélection, et puis derrière, ils essaient de boycotter la Coupe d'Afrique. Ouais. C'est incohérent.
Bien sûr, parce que là, du coup, n'oubliez pas, on va vous donner du pain à manger, parce que en 2026, vous allez avoir 9 représentants, et alors, mais 9 représentants, et puis l'Amérique du Sud, là, qui sont déjà 6, ils sont 11 pays, ils vont avoir 9 qualifiés, il y aura 2 éliminés. C'est quoi ce cirque?
Et nous, en Afrique, on n'a que 5.
Oui, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des quotas pour tout le monde.
L'avantage de 9, c'est qu'on aura peut-être tout le temps les mêmes équipes qui reviendront, ce qui permettra de
jouer certaines équipes. Oui, voilà, exactement. Ouais.
Où je suis content, c'est que tu prends Sané et Salah, avant de partir, ils ont marqué les deux.
Oui.
Il leur a dit au revoir pour le championnat anglais.
Oui, Riyad a marqué, Saïd Ben Rahma a marqué.
Tout le monde, voilà, ils ont tous répondu.
Et Edouard Mendy a fait un super match, regarde.
Tous ces joueurs ont répondu présent par rapport à leurs obligations professionnelles au niveau des championnats qu'ils exercent. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins ils sont partis tranquilles et ils ont marqué.
Non, mais à un moment donné, c'est comme si on interdisait à Platini de rejoindre l'équipe de France, comme si on interdisait par exemple à Messi de rejoindre l'équipe d'Argentine. C'est Messi, on dira rien.
Alors les gars, juste un truc, on est à la fin, mais les clubs aujourd'hui ont une telle puissance, notamment les clubs européens, que même face aux sélections européennes, on sait qu'il y a de la friture ça y est, entre les clubs et les sélectionneurs. Chaque Deschamps par exemple et le PSG, souvent ça s'entend pas trop. Si tu veux, l'Afrique malheureusement c'est ouvertement, c'est ça qui est scandaleux. Mais aujourd'hui les clubs européens ont un tel impact sur le football parce que c'est la puissance économique. Enfin, un joueur, c'est un actif pour un club. Hein.
Bien sûr. Ah oui,
mais ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Ils ont des budgets.
Ouais.
Ils ont des budgets télé. Ils ont de l'argent qui vient de partout. Mais il y a un truc qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des valeurs de pays. Et ces valeurs-là, C'est faut que eux ils les respectent parce que c'est pas des politiques. Eux c'est juste ils gèrent le football. Et le football c'est sûr que derrière il y a un rideau politique, mais à un moment donné c'est les politiques qui décident.
Très bien, ben écoutez, merci pour votre participation. Merci à Boula, merci à Sofiane. Rendez-vous dimanche prochain après avoir consommé deux journées de Cannes 2021 qui se joue finalement en 2022. Et à dimanche prochain, 18h-20h sur Beurre FM.